dorénavant, et surtout pour la prochaine conférence des Sénécréens le mois prochain, que vous allez avoir un grand succès aussi comme celle-ci, eh bien, je vous conseille à tous, adhérents, cartes d'abonnement, non-adhérents, de réserver à l'avance, soit par ESO, soit par mail, soit par téléphone. Et pensez bien à le faire longtemps à l'avance, parce que là, nous atteignons les difficultés qui seront difficiles à concilier avec la taille de la salle. Voilà. Donc, deuxième info, nous avons aussi le plaisir, vous les avez vus, d'accueillir des lycéens d'une classe de philo de terminale. Chaque mois, nous en recevons une. Alors, c'est vrai que ce chiffre-là s'ajoute au public qui vient, mais c'est aussi important pour nous d'accueillir les jeunes. Nous avons diminué les tarifs jeunes, les tarifs étudiants, et ils sont passés de 6 euros à 5 euros. Et nous venons de mettre en place aussi le pass culture qui devrait aussi permettre à tous les jeunes de 15-18 ans de nous rejoindre. Voilà, alors n'oubliez pas aussi de consulter le site parce que les infos les plus à jour sont sur le site. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la lettre d'information, la newsletter s'appelle l'info des fils, vous pouvez le faire en ligne aussi sur le site. Voilà. Alors ce soir, nous avons la chance, le plaisir, je ne sais pas comment le dire, d'accueillir Albert Moukévert, qui n'est jamais venu au Philophile. Donc pour nous, c'est un plaisir de le recevoir. Et alors, comme certains recrutent des premiers ministres les plus jeunes de l'histoire, nous avons parmi nous un conférencier qui est le plus jeune accueilli au Philophile. Alors, je ne dis pas que c'est le plus jeune de tous, hein, mais en tout cas de ceux que nous avons accueillis ce soir. Habituellement, c'est moi qui dis quelques mots, qui présente le conférencier, mais ce soir, je vais laisser Albert se présenter lui-même. Voilà, il va vous dire qui il est, ce qu'il fait. Je reprendrai un petit peu la parole pour introduire la soirée. Voilà, alors je vous signale aussi que la librairie L'Oiseau Siffleur est avec nous pour vendre des livres et pour les faire dédicacer. Alors j'oubliais, je suis désolée, notre ami du luxe qui est là, qui doit vous dire quelques mots sur le Viva Cinéma du luxe.
Bonjour, je ne vous prendrai pas longtemps, mais effectivement, on a un long partenariat avec les Philophiles et la scène nationale de Valence, le luxe. Et donc, je profite de cette séance où vous êtes nombreux pour vous parler du prochain événement annuel qu'on a, notre festival du cinéma du film restauré, film de patrimoine restauré, qui s'appelle Viva Cinéma. J'ai laissé des programmes là-haut, à côté de l'Oiseau Siffleur. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pourrez avoir tout le détail. Et ce soir, je prends 2-3 petites minutes pour donner un coup de projecteur dans cette programmation très très riche qui est cette année autour de deux grandes thématiques. Une rétrospective du cinéaste japonais Ozu autour de la famille et de la culture japonaise. Et une autre thématique, Jeux Olympiques, on va en manger toute l'année. Une thématique sur le sport au cinéma, mais version luxe, donc avec des films du patrimoine, de Buster Keaton à Scorsese. Je vous laisserai regarder le programme en détail. Mais j'avais envie, voilà, de vous dire trois films un peu coup de cœur, et puis qui sont en lien avec des sujets philosophiques, tant qu'à faire. Donc, par rapport au sport, un film vraiment grand public que vous pouvez aller voir en famille dès 5 ans, mais même de 5 à 155 ans, on peut y aller, c'est Buster Keaton, que vous connaissez certainement, c'est l'autre Charlie Chaplin. Et Buster Keaton, il y a deux films, et alors la particularité de cette année, on le fait chaque année, mais qui dit cinéma de patrimoine, dit beaucoup de films muets, et qui dit films muets, dit orchestration, et donc ciné-concert. Et cette année, pour les 10 ans, nous avons 7 ciné-concerts, et souvent on a l'idée du piano avec du ragtime. Là, on a plusieurs ensembles, jusqu'à de la musique électro. Ça va de l'ensemble Beatus, de musique ancienne, jusqu'à la musique électro. Donc, un film, Le Dernier Round, de Buster Keaton, où c'est un jeune intellectuel qui a envie de devenir sportif alors qu'il est tout gringalet. Donc, le contraste va amener à des situations assez cocasses. Mais sous le terme de l'humour, il ne faut pas oublier que Buster Keaton était lui-même un grand athlète et il répétait tout au cordeau et au dixième de seconde, tous ses gestes. Question sur le, est-ce qu'il y a un héros, sur qu'est-ce qui est la réalité, l'apparence qu'on donne, ou voilà, ou sur comment en tout cas il va feindre la maladresse pour le meilleur de ce film. Voilà, donc le dernier round entre Francis des Concerts avec Nathaniel Berger, qui est un compositeur musique de film, qui est
vos formes des opinions. Merci. Comment est-ce que ces opinions informent nos prises de décision sur différents sujets? Donc, d'un côté, je suis clinicien, donc j'ai travaillé longtemps en psychiatrie, à la Pitié-Salpêtrière et à l'Hôpital du Mont-d'Or, pour ceux qui connaissent. Je continue mon activité clinique, j'ai un cabinet en ville à Paris où je fais de la thérapie interpersonnelle. Je suis aussi enseignant, comme du coup, de psycho ou de neurosciences, selon des semestres. Je fais des conférences où j'essaie d'expliquer un peu la recherche scientifique, aussi bien en psycho qu'en neurosciences, sur des sujets qui peuvent être pertinents pour les uns et les autres. Et mes recherches portent en ce moment sur trois sujets principaux. Le premier, c'est le climat. Je sais que ça va paraître bizarre, mais je travaille sur l'approche cognitive et comportementale de la transition écologique. On a souvent tendance à penser la transition écologique comme une transition purement technique, mais tous les rapports du GIEC montrent qu'il faut prendre en compte ce qu'on appelle le facteur humain. Et donc on s'intéresse à pourquoi est-ce qu'on fait rien, est-ce que c'est un problème systémique, est-ce que c'est un problème de motivation d'individus, etc. Je travaille aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on forme nos opinions en tant que citoyen. Donc avec les personnes qui viennent me consulter, on travaille sur comment est-ce que je forme une opinion sur moi, est-ce que je vais bien, est-ce que je suis stressé, est-ce que je suis déprimé, est-ce que mes potes m'aiment bien. Mais aussi je m'intéresse à d'autres formes d'opinions qui sont nos opinions sur les sujets sociétaux. Bah justement, le réchauffement climatique, les fameuses fake news, les réseaux sociaux, les interactions, les bulles de filtre et tout ça. Et le troisième sujet auquel je m'intéresse en ce moment, c'est les neurosciences chez le grand public. Il y a une sorte de vague de neurosciences qui déferle un peu partout. Tout le monde entend parler aujourd'hui de sérotonine, de dopamine, de cerveau. Il y a la super librairie qui est là, de striatum, etc. Est-ce que ces connaissances sont utiles pour le grand public? Est-ce que ce serait pas, est-ce que les neurosciences chez le grand public seraient pas une sorte d'effet de mode pour couvrir d'un couvert un peu scientifique des sujets qui peuvent être pas du tout liés aux neurosciences, mais qui sont sociétaux ou politiques, ou c'est ce qu'on appelle les sujets socio-scientifiques, les sujets qui sont un peu à la croisière, entre des sujets sociaux et des sujets scientifiques. Les OGM, la physique quantique, les neurosciences, le réchauffement climatique, Internet, les bitcoins, la blockchain, etc. Aujourd'hui, on va faire une conférence un peu plus générale. On va essayer de voir ensemble quelles sont les bases de la cognition. Simplement, on va faire une sorte d'introduction pour essayer de dire d'où je vous parle, parce que c'est important que je vous écris. Je ne viens pas vous parler de mon opinion, j'essaie vraiment de restituer ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau, et bon, c'est pas vraiment grand-chose, je ne vais pas se mentir. Mais c'est déjà pas mal, on sait tout ce qu'on peut éliminer. C'est déjà beaucoup, on a éliminé beaucoup de fausses choses, même si on ne sait pas encore vraiment comment ça marche. Donc on va faire une sorte d'introduction un peu épistémologique, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur le cerveau, puis on va voir les différentes étapes qui vont du moment où un photon de lumière touche ma rétine, ou une vibration de l'air touche mon oreille, comment est-ce que tout ça est transformé en un signal électrique, comment est-ce que mon cerveau traite ces informations, et comment est-ce que ça sort avec les mots que je suis en train de vous dire. Plusieurs choses, une ou deux choses avant qu'on démarre. La première chose, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime bien être interrompu. Donc si vous avez des questions,
on ne manquera pas.
N'hésitez pas à lever la main si c'est en lien avec ce que je suis en train de dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou vous avez une remarque, ou ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas à lever la main et on prend la question au fil de l'eau. Si vous avez des questions qui ne sont pas en lien avec ce que je suis en train de dire, vous pouvez les laisser à la fin. Et on fera une session de questions-réponses de manière plus formelle à la fin de la conférence. N'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me dérange pas du tout, et ça m'évite de parler seul pendant genre une heure. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je veux vous dire?
Chiasma.
Pardon?
On peut parler de chiasma?
Ah oui, on peut parler de chiasma. Donc, chiasma, le logo est là.
C'est une structure que j'ai cofondée avec des potes chercheurs et chercheuses, où on s'intéresse justement à comment on forme d'opinion, à nos opinions, et surtout comment on change d'avis, quelles sont les conditions qui peuvent faire qu'une personne change d'avis. C'est ce qu'on appelle en sciences cognitives la flexibilité mentale. Et Chiasma, on organise en gros des événements, souvent à Paris, qui sont gratuits, ouverts à tous. Chiasma n'a aucun volet économique. Genre, Chiasma ne fait pas d'argent. Tous les membres de Chiasma, on a tous nos boulots à côté. On n'est pas think tank, on ne fait rien face publique à part ces événements. Et nos événements ont la particularité, c'est qu'on organise des débats. Le but des débats qu'on organise chez Chiasma, c'est pas d'avoir raison, mais d'essayer de comprendre comment est-ce qu'une personne peut arriver à une certaine opinion. Donc, c'est des débats dans ce qu'on appelle un format Oxford. C'est hyper formel. Ça n'a rien à voir avec les débats que vous voyez à la télé. Il y a des groupes de un groupe pour, un groupe contre. Ils ont des temps de parole très particuliers. Les débattants viennent du public et sont tirés au sort. Donc, vous pouvez défendre l'opinion contraire à celle que vous croyez. Le plus important, c'est juste d'essayer de proposer les arguments les plus sains, donc les moins fallacieux, d'une opinion. Encore une fois, le but, c'est juste d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux arriver à une opinion. Les débats qu'on a déjà faits sont très vastes et variés. Ça peut être demain, par exemple, je fais un débat avec les détenus de la prison de Valence. On va faire, il est éthique et acceptable de manipuler quelqu'un pour son propre bien, ou il faut avoir vécu quelque chose pour en parler. On a fait la mondialisation de la culture. Toutes les motions dans un débat formel sont des affirmations. Il y a un pour et un contre. C'est jamais des questions. C'est un peu bizarre. Et donc voilà ce que fait Chiasma. Là, ça fait 2-3 ans, on est un peu flemmard comme groupe de potes. On n'a pas fait vraiment, je pense. Ici, on a fait un événement à la mairie du 10e. Le cerveau est efficient. Vraiment flemmard, mais il a une mauvaise réputation. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, même si ce n'est pas en lien avec ce que j'ai dit, si vous avez des questions plus générales sur le cerveau, sur des sujets sociétaux, n'hésitez pas à les poser. Si j'ai une réponse, je vous la donnerai. Si je n'en ai pas, ça va m'intéresser et je vais aller chercher après pour m'informer.
On y va.
J'espère que ce sera intéressant pour vous. Ma présentation fait à peu près, je fais une cinquantaine de minutes, peut-être une heure, ça dépend parfois, je dépasse parce que je vais beaucoup sur des tangents. Mais je vais essayer de garder le rythme parce que je pense qu'on est un peu en retard. Et moi, personnellement, moi, ce qui m'intéresse, je peux pas vous mentir, moi, j'ai déjà fait ce point plein de fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions-réponses. Donc, plus j'arrive vite aux questions-réponses, plus je suis. Et donc, on va parler de votre cerveau joue des tours, qui est le titre de mon premier ouvrage, qui est disponible à la vente. Je ferai des
Il y en a un autre qui va sortir en avril.
Il y en a un autre qui va sortir en avril. Je peux vous donner en avant-première le titre. Ça va s'appeler Neuromania. Et c'est justement sur cette manie en ce moment de vouloir tout expliquer par le cerveau, alors que plein de fois, on n'y comprend pas grand-chose. Mais ça n'empêche pas tout le monde de dire on a montré une aire du cerveau qui est responsable de ci, qui est responsable de ça, et c'est pas vrai. Vous pouvez lire le livre pour comprendre pourquoi. Quand il sortira, si je le finis à temps. Parce que je suis très en retard. Mais il sort le 4 avril. Je ne l'ai pas fini. Je vais vous travailler à l'hôtel ce soir. Donc on va y aller. Avant de commencer, je vous ai dit c'est très important pour moi de vous dire d'où je vous parle. Et souvent, quand on dit neurosciences chez le grand public, très rarement on est en train de parler de neurosciences. La majorité du temps, quand on vous dit neurosciences, c'est pour donner une sorte de vernis scientifique à des informations qui viennent de d'autres disciplines. Et ce problème, on y a fait face depuis très longtemps. Et donc, on a créé une sorte de nouvelle discipline, je ne sais pas si vous la connaissez ou si ça vous parle, qui s'appelle les sciences cognitives. Et donc, je vous expliquer un peu c'est quoi les sciences cognitives. En gros, quand on fait de la science, on essaye, la science, on en a beaucoup parlé, notamment avec la pandémie, etc. Mais je trouve que très rarement, on a défini c'est quoi la science. La science, c'est quelque chose de très très simple, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde naturel. Le monde naturel, c'est le monde dans lequel on vit, c'est tout. C'est les pierres, les tables, les animaux, mais aussi les humains. Et quand on fait de la science, pour essayer de comprendre le monde naturel, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer ce qu'on appelle des modèles théoriques. Les modèles théoriques, c'est des modèles, quand on pense, qu'on sait comment quelque chose fonctionne, qu'on essaye de l'écrire, et de le confronter au réel. L'humain fait partie du monde naturel, et il se trouve que différentes disciplines se sont intéressées à l'humain de plein de différents angles. Donc, par exemple, il y avait la biologie qui essaie de comprendre comment fonctionne le corps, l'anthropologie qui essaie de comprendre les civilisations et les cultures, l'éthologie, la psychologie, la neuroscience, la neurobiologie, la philo, la linguistique, etc. Et chacune de ces disciplines développait ses propres modèles théoriques sur comment se développe le langage, que ce soit au niveau de la phonétique, de la linguistique, mais aussi au niveau du cerveau, etc. Et autour des années 60, on va dire, on a remarqué quelque chose qui est assez bizarre. C'est que ces différents modèles théoriques qui étaient issus de différentes disciplines, mais qui étudiaient le même sujet, étaient parfois en contradiction les uns avec les autres. Par exemple, imaginez que je suis un psychanalyste et je vais dire « Ah, cette personne est en train de refouler un souvenir. Ben, » Un neuroscientifique, par exemple, va aller dire « En fait, on ne trouve pas de mécanisme de refoulement dans le cerveau. » Donc soit le neuroscientifique se trompe, il n'a pas encore trouvé comment ça marche, soit le psychanalyste se trompe et que le refoulement n'existe pas vraiment. Et donc on s'est dit « On ne peut pas continuer comme ça. » L'humain est un sujet trop complexe pour que chacun étudie ça de son côté tout seul. On va essayer de créer une sorte de discipline qui va être interdisciplinaire et transdisciplinaire, qui va essayer de développer des modèles théoriques qui soient cohérents les uns avec les autres aux différents niveaux de fonctionnement de l'humain. Donc aussi bien au niveau moléculaire, que cellulaire, que tissulaire, qu'organique, que cognitif, que sociologique, anthropologique, etc. Et on a appelé ça des sciences cognitives, dont le but, donc, c'est de comprendre les mécanismes qui façonnent les comportements individuels et collectifs et leur interaction avec l'environnement. Et on fait ça sur trois échelles. Ce qu'on appelle l'échelle micro, c'est l'échelle physique, donc l'individu, moi et moi-même. Aujourd'hui, par exemple, la majorité de la conférence va être sur l'échelle micro, moi et mon cerveau. L'échelle, ce qu'on appelle l'échelle méso, c'est la sphère sociale. On est des animaux sociaux et c'est très difficile de comprendre le fonctionnement d'humains en regardant juste un humain isolé. Il faut voir comment est-ce que j'interagis avec mes potes, ma famille, les commerçants de mon quartier, mes collègues de travail, etc. Une échelle plus large qui est l'échelle macro, qui est l'échelle sociétale. Ça peut être mon quartier, ma ville, le pays, ou parfois même la planète. Et les interactions entre ces trois différentes échelles. Comment est-ce que, par exemple, les normes sociales, donc c'est quelque chose qui est de l'effet macro, conditionnent l'échelle micro. Quelles sont les interactions entre ça? Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on va voir, la majorité des choses viennent de ces disciplines. Donc moi, quotidiennement, j'ai fait une thèse, comme je vous ai dit, en neurosciences cognitives et un master en psychologie clinique, mais quotidiennement, je vais travailler avec des anthropologues, avec des philosophes, avec des psychologues sociaux. Par exemple, un des plus grands mystères qu'on a en neurosciences, c'est l'émergence de la conscience. Comment est-ce que de la matière organique crée moi, qui vous parle? Et c'est quasiment impossible de faire de la recherche sur l'émergence de la conscience si vous n'êtes pas hyper calé en philo. Vous n'allez jamais vous en sortir. Aucun chercheur sérieux, neuroscientifique, qui bosse sur la conscience, n'est pas hyper calé en philosophie, parce que les philosophes ont fait beaucoup de progrès sur ce sujet avant l'invention des IRM, des EEG, etc. Et donc,
mais même.
Pardon ?
Même.
Même quoi ?
Même les philosophes n'ont pas tout exploré de la question de la conscience.
Non, mais ils ont fait pas mal de... On ne va pas réinventer la roue à chaque fois, et donc il faut qu'on construise sur les connaissances qui ont été bâties avant nous, et donc comprendre la conscience. Par exemple, je fais ce dimanche, je fais des conférences au MK2 à Paris... une fois par mois, et la conférence de ce dimanche-là, ça va être sur le libre-arbitre. Bonne chance pour vous en sortir en libre-arbitre si vous n'avez pas lu Spinoza, genre ça va être très très compliqué, vous n'allez jamais vous en sortir. Et donc, je sais que ça paraît, en France, ça paraît bizarre, parce que on a les matières scientifiques, les matières littéraires, mais quand vous faites des neurosciences ou des sciences cognitives, vous êtes obligé de casser ce mur et de faire les deux, sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Ça, c'est un peu d'où je vous parle. Comme je dis, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'échelle micro. Peut-être que dans le futur, je reviendrai, on fera le compte sur l'échelle méso, ce qu'on appelle la cognition sociale, ou sur l'échelle macro, qui sont souvent les normes sociales, ou l'effet de la culture, ou de la population. Par exemple, on a fait une conférence, la foule est-elle sage? Combien d'humains deviennent intelligents? À partir de combien d'humains on gagne en intelligence? À partir de combien d'humains est-ce qu'on commence à repérer? C'est toute une science aussi. Et donc, ça c'est un peu pour l'info, on peut commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Et, la première chose à savoir sur les neurosciences, sur les sciences cognitives, c'est que c'est ce qu'on appelle des sciences performatives. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de performativité, mais pour simplifier, on peut dire qu'on a deux types de pensées. On a ce qu'on appelle les pensées performatives et ce qu'on appelle les pensées inertes. Les pensées inertes, les croyances inertes, c'est des croyances qui, si je les modifie, ça ne change pas grand-chose à mon fonctionnement. Par exemple, imaginez que moi je pense que cette estrade, je ne sais pas comment on appelle ça, est faite de bois, ça a l'air d'être un parquet en bois, et à la fin de la conf, quelqu'un vient et me dit « En fait non, c'est pas vrai, c'est un nouveau matériel qu'on a développé ici à Valence, c'est une sorte de polymère métallique qui a exactement la même propriété du bois, mais ce n'est pas du bois. » ça ne changerait pas grand-chose dans ma vie. Je vais quand même marcher de la même manière dessus, je vais mettre la table de la même manière dessus, ça ne va pas changer grand-chose dans ma vie. Par contre, il y a des croyances qui sont plutôt performatives. Par exemple, si moi je pense que les gens n'aiment pas changer, le fameux résistance au changement, et je suis manager d'une boîte, je mets en place un chantier de changement, et les gens résistent, ben, je vais me dire c'est normal qu'ils résistent. On est résistant au changement, il faut juste que je pousse un peu plus, et au bout d'un moment, ils vont passer l'obstacle et ils vont accepter ce changement. Mais si quelqu'un vient me dire, en fait, non, Albert, tu sais, en fait, la résistance au changement est un mythe, ça n'existe pas, les gens ne sont pas résistants au changement, et je mets en place un chantier de changement et les gens résistent, je vais me dire, ah, il y a un truc bizarre, je peux aller les écouter, peut-être que ce changement n'est pas bon pour eux. C'est une croyance performative. Il se trouve que la majorité des croyances qu'on a sur comment on fonctionne sont performatives. Si moi je crois que les gens ont besoin d'être rassurés, si moi, il y a plein de modèles comme ça qu'on peut voir ensemble, de performativité qui touche à notre fonctionnement. Par exemple, la résistance au changement est un mythe. C'est pas vrai qu'on est résistant au changement. Je sais pas si demain le nouveau gouvernement annonce le SMIC à 3 000 euros. Je pense pas qu'il y aura plein de manifs dans la rue et de gens qui disent non, on veut pas changer. Ça dépend du changement. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. On appelle toutes ces croyances de la psychologie intuitive parce qu'on n'a pas attendu qu'il y ait la discipline de la psychologie pour commencer à s'intéresser à la psychologie. Dès les premiers écrits de l'humanité, on s'intéresse à comment on fonctionne, et donc on a tout un corpus de croyances comme ça qui sont intuitives, qui sont parfois fausses, parfois vraies. Par exemple, un autre exemple de psychologie intuitive assez connu s'appelle le modèle du déficit d'information. C'est une croyance qui dit que si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris, et qu'il faut les éduquer pour qu'ils réalisent que j'ai raison et qu'ils ont tort. Ça aussi très, très fameux en politique. Dans la politique, à chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec eux, ils disent « on n'a pas fait un assez bon travail de pédagogie », ils ne peuvent pas se dire « en fait non, les gens ont très très bien compris, ils ne sont juste pas d'accord ». Et donc, au lieu de se dire « peut-être qu'on se trompe », ils disent « ah, il faut faire plus de pédagogie, plus de pédagogie, plus de pédagogie ». À un moment, bah, non, ce n'est pas juste une question de pédagogie, donc on appelle ça le modèle du déficit d'information, il y a l'acceptabilité. Et enfin, le modèle qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle le modèle de l'homo economicus, qui dit que nous sommes des êtres relativement rationnels. C'est un modèle qui a été assez présent dans la société jusqu'aux années 50-60, où un chercheur qui s'appelle Herbert Simon est venu un peu le montrer que c'était pas vrai, qu'on n'est pas du tout des êtres rationnels, on n'est pas en train de... Rationnel, on ne peut pas rentrer dans le détail de c'est quoi, mais disons qu'on n'est pas en train de faire des listes de pour et de contre quand on prend nos décisions. Je suis sûr que plein d'entre vous, en tout cas moi je l'ai fait, on a déjà face à une décision difficile, on a fait deux colonnes, on a fait ok, point positif, point négatif, on a rempli les colonnes et ça ne sert à rien. Pas du tout aider pour avancer dans notre fonctionnement parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Le problème c'est que quand on se trompe sur ces croyances performatives, on s'expose à plein de problématiques qu'on appelle les effets rebonds. C'est que si moi j'ai une fausse conception d'une personne, de comment on fonctionne, que ce soit moi ou les autres, et je persiste, ben je peux m'exposer à plein d'effets néfastes. Par exemple, un des effets rebonds les plus connus s'appelle l'effet Cobra. Je ne sais pas si certains sont familiers avec l'effet Cobra. Il s'appelle comme ça à cause d'une politique publique qui a été faite en Inde. En gros, en Inde, je ne sais plus dans quelle ville, ils avaient une sorte d'infestation de Cobra. Il y avait des Cobras partout, c'était la catastrophe. Les autorités publiques n'arrivaient pas vraiment à gérer le problème. Et donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un programme de récompense? Les citoyens qui nous ramènent des cobras, on leur donne une sorte de prime monétaire, et comme ça, on est en train de crowdsourcer, entre guillemets, l'effort. Et donc, ils se disent, OK, on va mettre ça en place, et je sais pas, on va dire 5 euros par cobra. Sauf que, ils n'avaient pas compris comment fonctionne la cognition humaine, et ce qui s'est passé, c'est que les citoyens ont commencé à créer des fermes de cobras.
C'est un biais.
Et donc, le gouvernement voit arriver des tonnes de cobras tous les jours, en se disant, genre, il n'y avait pas tellement de cobras à la base. Et les gens sont en train de faire ça pour se faire de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'arrêter les programmes de fidélité. Ils arrêtent le programme de fidélité, sauf que pendant ce temps, plein de citoyens avaient déjà des fermes de cobras chez eux, qui tout d'un coup ne servaient plus à rien, donc ils les ont relâchés. Et l'épidémie de cobras s'est empirée, parce qu'on n'avait pas pris en compte ce fameux facteur humain sur lequel je travaille, notamment pour la transition écologique. Et donc, on n'est pas vraiment des êtres rationnels. Si vous voulez un autre exemple de comment on n'est pas des êtres rationnels, on va prendre un exemple hyper parlant, qui est très très simple, tout simplement celui de la clope. La clope est un produit assez étrange, parce que c'est un des rares produits sur lequel on écrit « ce truc vous tue ». On vous fait payer très cher le truc. Et si on était des êtres, des homo economicus, des êtres rationnels, coût-bénéfice, ben, il ne devrait pas y avoir de fumeurs. Mais il se trouve que c'est pas comme ça que ça marche. C'est écrit fumez-tu, ça coûte de l'argent, ça coûte de plus en plus d'argent d'année en année. Mais il se passe quelque chose dans notre cerveau qui fait que il y a des fumeurs. Et on parle vraiment de commencer à fumer. Évidemment, il y a des pressions sociales, etc., tout ça, mais ça peut pas tout expliquer. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça marche, et pourquoi, si on fonctionne pas du tout comme ça, qu'est-ce qui se passe ici pour qu'on fonctionne comme ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Et donc, on va commencer par une question qui va paraître un peu bizarre, mais je vais expliquer pourquoi je la pose, et qui est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on pense pas tous à la même chose? J'entends souvent parler de la pensée unique. La pensée unique, mais quelque part, on devrait avoir une pensée beaucoup plus unique que ce qu'on a. Parce qu'on est supposé avoir un réel commun, objectif et stable. Sauf que, à partir d'un même réel, on arrive à des informations très très différentes. Par exemple, là, pour l'heure ou l'heure et demie qu'on va passer ensemble, vous allez voir les mêmes diapos, vous allez entendre les mêmes mots. Si à la fin je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé, vous n'allez pas penser la même chose. Si vous allez au ciné-club, c'est pas sympa d'avoir dit à la personne d'arrêter de parler, c'était très intéressant. Si vous allez voir le film de Buster Keaton que je vous recommande vivement, peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça nul, genre le mec il parle même pas. Et d'autres vont trouver ça hyper génial et tout, mais la question c'est pourquoi. Et j'entends dans vos cerveaux des explications de pourquoi, vous êtes probablement en train de penser à deux choses. Soit qu'on n'a pas le même vécu, donc on n'a pas le même tempérament, on n'a pas éduqué de la même manière, on n'est pas exposé aux mêmes choses et donc on ne pense pas à la même chose. Soit la biologie, on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes donc, personnalités, les mêmes valeurs, les mêmes émotions, les mêmes intuitions. D'ailleurs, sur les intuitions et les émotions, quelque chose qui est important à dire, c'est que quand je dis le mot cognition, ça implique vos pensées, vos émotions et vos intuitions. Les trois sont des cognitions. Je ne suis pas en train de mettre les émotions de côté. Et donc, soit c'est parce qu'on n'a pas le même vécu, soit c'est parce qu'on n'a pas la même biologie. Mais il se trouve que, et ces deux raisons sont tout à fait valables, mais il se trouve qu'en science, parfois on fait ce qu'on appelle des expériences de pensée, donc ça vient de la philosophie, des expériences qu'on fait dans notre tête, parce qu'on ne peut pas les faire dans le monde réel. Il se trouve qu'on pense que même si on prend deux personnes qui sont exactement identiques, donc encore plus identiques que des vrais jumeaux, on les fait vivre quasiment la même chose, ils ne penseraient pas la même chose. Il y a une troisième raison de pourquoi on ne penserait pas la même chose, et cette raison vient de propriétés du cerveau. Et cette propriété va nous intéresser énormément pour comprendre ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Et avant de vous dire c'est quoi cette raison, on va jouer un jeu. Tout simplement. Parce que je pense que ce jeu va nous aider à mettre en évidence ces choses. Sur la diapo qui suit, on va jouer un jeu. Vous connaissez tous le jeu des 7 différences. On va jouer des jeux des 1 différence. Ça va être beaucoup plus simple. Quoique, je suis pas sûr. Et la différence avec le jeu des 7 différences, c'est qu'au lieu que les images soient l'une à côté de l'autre, les images vont être l'une derrière l'autre. En gros, vous allez voir une image, puis j'ai intercalé entre les deux images l'équivalent d'un clignement des yeux, un cache gris de 150 ou 250 millisecondes, je ne sais plus c'est quoi la valeur qu'on avait mise. Et derrière, vous allez voir une autre image qui est identique à la première, mais il y a un seul truc qui change. Et votre boulot, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui change. Il y a deux choses à savoir. La première, c'est que si vous n'aviez pas ce cache de gris de quelques millisecondes, vous auriez vu instantanément ce qui est en train de changer. Le simple fait que je mette une sorte de pause attentionnelle dans votre cerveau de quelques millisecondes va faire que vous allez avoir beaucoup plus de mal à trouver. La deuxième chose, vous allez trouver ce qui est en train de changer. Le but, c'est pas de vous mettre en échec, c'est juste de vous montrer que c'est pas instantané, et donc je vais vous demander quelque chose de très simple. Les personnes qui trouvent ce qui change, je vais leur demander de lever la main, pour ne pas divulgâcher, j'ai appris ce mot il y a pas longtemps, divulgâcher ce qui change à leur voisin ou à leur voisine. Et donc quand vous voyez ce qui change, vous levez la main, et quand on est à peu près à la moitié de la salle qui a trouvé ce qui change, on va dire qu'est-ce qui change et on verra qu'est-ce que ce truc peut nous expliquer sur pourquoi est-ce qu'on pense pas à la même chose. Donc, une seule chose est en train de changer. Quand vous trouvez ce qui change, vous levez la main. Et là, on a la première personne, deuxième personne, trois. Ça a commencé à s'accélérer. La pression monte sur ceux qui n'ont pas trouvé. Il faut savoir que plus vous êtes en pression, moins vous avez de chance de trouver. En général, au bout de 10 secondes, on a des mythos qui commencent à lever la main. Ils n'ont pas trouvé, mais ils se disent, y a ma réputation qui est en jeu. Hop, j'ai trouvé, mais en fait, pas du tout. C'est pas grave, on vous pardonne. C'est de la cognition sociale. Ça passe. On va attendre encore 2-3 secondes. Mais on va abréger la souffrance de ceux qui n'ont pas. Donc, j'étais le premier à lever la main, c'est quoi? Exactement, la rambarde qui monte et qui descend.
La hauteur d'un mandat.
Donc c'est pas un petit détail, c'est pas genre on est en train de changer la laitue en frisée. C'est quelque chose d'assez gros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus ne plus la voir. Vous n'avez plus que ça. Vous avez passé une éternité à chercher, genre, le verre de vin, est-ce qu'il y a le lutin ?
Dans les détails.
Est-ce que ses cheveux bougent un peu de quelques millipixels, de quelques pixels ? Et là, vous avez genre, un gros truc qui fait... C'est quoi le lien entre ce mini-jeu et ce qu'on est en train de dire ? C'est que ça met en évidence des propriétés physiologiques dures de notre cerveau qui sont nécessaires pour comprendre comment on fonctionne, qui sont qu'on a des ressources cérébrales hyper limitées. On fonctionne, mais en fait, on fonctionne avec quasiment rien. Une des plus grosses découvertes que j'ai eues, moi, personnellement, en faisant mes études, c'est comment est-ce qu'on arrive à fonctionner. Genre, comment est-ce que tous les jours, il n'y a pas des tonnes de problèmes en plus que ce qu'on a déjà. On a une perception qui est très partielle, on ne voit pas tout. Même quand on regarde, on a une attention qui est limitée. Même quand vous êtes en train de regarder l'image, donc vous êtes en train d'apercevoir, vous ne voyez pas tout. On a une attention qui est limitée. Et ces deux facteurs sont exacerbés par le troisième, qui est que le monde est complexe. Là, on avait juste une image qui fait quelques mètres un mètre par deux mètres, on va dire, donc un peu plus. Et c'est déjà beaucoup. Et donc, même si on a une réalité commune qu'on est en train de partager, on n'est pas en train de l'absorber en entier. C'est comme si chacun et chacune d'entre nous est en train de regarder le monde par le trou d'une petite serrure. Et même quand on regarde la même chose, on ne se rappelle pas de tout. Genre là, ça fait 15 minutes que je vous parle à peu près. Je serais incapable, aussi bien vous que moi, de répéter exactement ce que j'ai dit. On a déjà oublié des trucs. Donc, on arrive à une sorte de réalité de notre cognition. C'est vraiment une sorte de règle générale de la cognition. C'est qu'on est tout le temps, tous et toutes, en permanence, en train de gérer des niveaux d'incertitude. On est tout le temps face à de l'information incomplète. Et maintenant, je peux vous dire sur quoi je travaille, le titre officiel de ce que je travaille. Moi, je travaille sur la prise de décision dans des situations d'incertitude. Comment est-ce qu'on prend des décisions quand on est face à des informations incertaines? Et on est tout le temps face à de l'incertitude. La question, c'est combien? Est-ce que c'est méga incertain ou est-ce que c'est un tout petit peu incertain? Et comment est-ce que l'incertitude modifie la manière dont on forme nos opinions, dont on prend des décisions? Parce qu'on est tout le temps face à des degrés d'incertitude. Mais moi, quand je vis dans ma vie quotidienne, j'ai pas l'impression que je suis incertain. Si je dois prendre une décision, parfois au contraire, je sens que je suis trop méthodique, que j'en fais trop. Et donc, il y a quelque chose dans mon cerveau qui est en train d'invisibiliser cette incertitude. Il y a quelque chose qui est en train, une sorte de surcouche, qui est en train de venir et boucher des trous qu'il y a dans ma mémoire, dans ma perception, dans ma cognition, dans mes émotions, etc. Et ça nous fait arriver à une deuxième question, qui est donc la question sur laquelle je travaille de manière plus formelle, qui est, du coup, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance? Si je suis tout le temps face à de l'information incomplète, comment est-ce que je peux être sûr de ce que je suis en train d'apprendre? Et pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de méthode d'acquisition de la connaissance. Par exemple, en médecine, pendant à peu près 2000 ans, pas genre 100, 2, 3, 400, pendant 2000 ans, quelle était la première ligne de défense en médecine? Genre, vous êtes malade, vous allez voir le toubib en 1623. Qu'est-ce qu'il fait?
Une saignée.
Une saignée. Mais la saignée, c'est un truc hyper intuitif. C'est du fonctionnement intuitif. Je dis, si quelqu'un va mal, c'est qu'il a un problème dans son corps. La meilleure chose à faire, c'est de sortir. Donc, par exemple, imaginez que j'ai un rhume. Je vais voir le médecin en 1423. Il me dit, on connaît, c'est un truc qui se cache dans ton bras gauche. Tu vas te saigner 2 cc de sang. Et tu vas attendre 3-4 jours et tu vas aller mieux. Donc, je vais voir le médecin, j'ai un rhume, je suis vraiment mal. Il me saigne. Et au bout de 3-4 jours, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller mieux. On va se dire, bah, top, la saignée, ça marche. Imaginez que j'ai un truc un peu plus grave, j'ai la polio, je vais voir le médecin, il me saigne, au bout de quelques jours, je vais pas mieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va re-saigner ailleurs, il va dire, ah ben, ce truc, c'est un mal qui se cache un peu partout, la théorie des humeurs et tout ça, c'est passé à ton bras droit, donc je vais saigner ton bras droit, puis dans les jambes, puis dans l'autre jambe, je vais pas mieux, je vais pas mieux, je vais pas mieux, et au bout d'un moment, je vais mourir, qu'est-ce qu'on va se dire? On peut pas sauver tout le monde. Ce truc, ça marche hyper bien pour plein de gens. Et ça passe comme lui. Oui, c'est assez... Je ne connaissais pas, donc je vais chercher. Si vous avez le nom du philosophe, ça m'intéresse. C'est assez proche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de manière d'évaluer ce qu'on ne sait pas. Je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas, parce que je ne le sais pas. Et donc, les médecins, à l'époque, l'information incomplète, on revient à cette notion d'incertitude, d'incomplétude, l'information incomplète qu'ils n'avaient pas, c'était toute l'existence du microscopique. Donc les virus, les bactéries, mais aussi bien le système immunitaire, donc les globules blancs, les leucocytes, les lymphocytes, etc. Ils savaient rien de tout ça, et donc leur cerveau, et qui est le même que notre cerveau, semble broder. Notre cerveau, quand il est face à de l'incertitude, là, il semble broder avec l'information disponible, qui correspond à ce qu'on sait, à un proverbe qui est très important, je pense, en épistémologie, c'est la connaissance est fille de son époque. On crée de la connaissance à partir de notre époque. Qu'est-ce qu'on sait? Où est-ce que notre connaissance est arrivée? On brode avec ce qui est disponible. De là vient un adage que vous avez sans doute déjà entendu et qui est assez important pour ce qu'on essaye de dire, qui est « la carte n'est pas le territoire ». Qu'est-ce que ça veut dire « la carte n'est pas le territoire » C'est, on crée des cartes mentales de comment fonctionne le monde. Donc, par exemple, pour les médecins, pendant 2000 ans, la carte, c'était quand quelqu'un va mal, il faut le sortir de son corps. Cette carte ne reflète pas le monde réel auquel on n'a jamais accès, parce que tout passe par nos sens, qui est le réel. Donc, dans le territoire, il y avait justement le système immunitaire, les virus, les bactéries, etc., etc. Il y a tout le temps un décalage entre nos cartes et le territoire, mais certaines cartes peuvent être plus précises que d'autres. Par exemple, en science, comme je vous l'ai déjà dit, nos cartes en neurosciences, on sait très bien qu'elles sont incomplètes, on sait très bien qu'on n'est pas du tout encore à terme, parce que depuis, on a développé des manières d'évaluer ce qu'on ne sait pas, à travers des critères de prédictibilité, de contrôle, etc. Mais, par exemple, nos cartes sur le déplacement des objets dans l'espace, on sait qu'ils sont assez robustes. On peut faire atterrir une sonde sur une météorite qui a des milliers de kilomètres, qui va à des milliers de kilomètres heure, avec une précision assez inouïe, et donc nos cartes sont relativement bonnes. Mais ces cartes, on ne les utilise pas juste pour la science. On les utilise quotidiennement pour tout. En fait, vous êtes un peu la somme de toutes les cartes que vous avez dans votre cerveau. Vos cerveaux ont des cartes sur comment fonctionne votre couple, votre célibat, vos potes à l'école, votre famille, votre équipe de foot préférée. Vos cerveaux sont maintenant en train de créer des cartes sur moi. Mon cerveau est en train de créer des cartes sur vous alors qu'on ne se connaît pas du tout. Et nous sommes, ma personnalité, qui je suis un peu la somme de toutes ces cartes. Le problème, c'est que les cartes en science, on appelle ça des modèles théoriques qui sont explicites, on peut les écrire, E égale MC carré, F égale M1, etc. Dans notre cerveau, nos cartes sont implicites. Je ne peux pas fermer les yeux et questionner mon cerveau sur comment est-ce que tu penses que fonctionne, la pizza. C'est des cartes qui sont implicites, mais qui font qui je suis. Donc ça devient intéressant, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi, comment est-ce que mon cerveau crée ces cartes? Quelles sont les étapes pour pouvoir créer ces cartes? Du moment où je suis en interaction avec le monde, au moment où j'arrive à transmettre, à communiquer, quand je communique, par exemple maintenant, je suis en train d'essayer de communiquer ma carte sur comment fonctionne le cerveau et la mettre dans votre cerveau. Donc, on va essayer de faire ça, ça va être... on vient de finir l'introduction. On va commencer à rentrer un peu dans vraiment le sujet. On va faire ça en plusieurs étapes. Donc, pour pouvoir créer une carte, il faut percevoir le monde. Donc, on va commencer par notre perception. Une fois que j'ai perçu le monde, j'ai besoin de l'interpréter, de mettre tout ça un peu en récit. On est des animaux sociaux, donc une fois qu'on a interprété, en général, on aime bien partager nos cartes, les discussions, etc. Et tout ça baigne dans un contexte qu'on appelle notre environnement. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps de faire les quatre étapes. On va se focaliser principalement sur notre perception et notre interprétation. Et encore une fois, aux questions-réponses, si vous avez des questions sur le reste, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, on va vraiment faire perception et une partie d'interprétation. Et donc, notre perception, c'est quoi? C'est nos sens, tout simplement. On a combien de sens? C'est pas vrai, on en a 8, je sais pas si vous savez, mais on va les voir ensemble. Donc un sens, déjà, c'est quoi? Un sens, c'est quelque chose pour lequel on a des capteurs qui nous informent sur le monde. En gros, c'est des afférences de mon système nerveux central pour essayer de comprendre, d'acquérir de l'information, soit sur le monde extérieur, soit sur mon corps. Donc on a le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Est-ce que quand on va essayer de deviner les trois sens qui manquent sur ce dessin? Oui. Alors l'interoception, on va, pour simplifier pour ce soir, on va dire que l'interoception et la proprioception sont ensemble. Ces deux sens, c'est pas trop s'ils sont séparés ou pas. Donc c'est quoi l'interoception et la proprioception? C'est ma capacité à sentir mon corps ou à pouvoir sentir la position de mon corps dans l'espace. Par exemple, là, je ferme les yeux, je penche la tête, je sais que ma tête est penchée. Comment je sais ça? J'ai besoin d'un sens, il y a le liquide dans mon oreille interne. Je ferme les yeux et je mets deux doigts. Comment est-ce que je sais que j'ai deux doigts qui sont levés alors que je ne les vois pas? Ou que ma main est maintenant derrière mon dos alors que je ne la vois pas? C'est mon interoception et ma proprioception. On a deux autres sens, oui?
Peut-être la géolocalisation?
Alors, on n'a pas ça, sinon on ne pourrait jamais être perdu. On ne peut pas se géolocaliser, mais c'est pas... Non, mais on a la capacité à s'orienter dans l'espace et la proprioception. Par contre, ce qui est intéressant, et je vous ai dit, je pars sur beaucoup de tangentes, puisque tout le monde a un peu rigolé, on a des cellules dans notre hypothalamus, qui s'appellent les cellules de lieu, qui fonctionnent un peu comme un GPS. C'est-à-dire, quand je suis rentré dans cette pièce, mon cerveau crée une sorte de carte interne, comme les cartes des jeux vidéo, et active, quand je marche, et crée une sorte de carte. Donc on a une sorte de géolocalisation, mais uniquement
pour les hommes.
Si seulement. Uniquement pour les espaces qu'on a déjà visités. Les hommes aiment bien dire ça pour pouvoir justifier leurs échecs. Et il manque encore un sens.
Oui.
Pardon? Le tonus, c'est pas un sens. En fait, il y a encore deux sens, je me suis trompé. L'intuition, je vous ai dit, c'est pas un sens, c'est une cognition, c'est comme les émotions, c'est comme les raisonnements, c'est la même chose.
L'empathie.
L'empathie, si c'était un sens, on aimerait tous. Pas tous. Alors, vous allez me faire partir là sur une histoire. Je sais pas, genre, on peut dépasser le temps. La perception du temps, on n'a pas un sens, mais mon expérience scientifique préférée de tous les temps, c'est une expérience pour essayer de comprendre est-ce que les abeilles ont la perception du temps. Si vous voulez, je peux prendre 3 minutes pour l'expliquer.
Oui.
J'ai pas besoin de beaucoup pour me convaincre. Donc, on voulait comprendre est-ce que les abeilles ont la perception du temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sorte de conditionnement. On est dans les années 20. C'est une expérience qui a pris genre 30 ans. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on prend une ruche d'abeilles, on met du miel tous les jours à midi, 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 puis on enlève le miel, pas de miel, des fleurs, pardon. Et on voit que les abeilles sortent à midi. On se dit, elles ont une perception du temps. Sauf que les scientifiques, on est un peu. Genre aujourd'hui, on a une vision des scientifiques comme genre des personnes en blouse blanche qui bossent chez Pfizer. Mais jusqu'à sur le siècle passé, les scientifiques, c'est les gens les plus barges. C'est des gens qui essayent de choper la foudre avec une clé dans une bouteille un soir orageux. C'est Frankenstein, etc., etc. Donc moi, je m'identifie plus avec ces scientifiques-là, vous voyez. Et donc les scientifiques se sont dit non, bah peut-être que je sais pas, c'est le soleil. Donc ils prennent la ruche, la mettent dans un truc fermé, dans une sorte de dépôt. Comme ça, les abeilles peuvent pas voir le soleil monter et descendre. Et ils voient, est-ce que les abeilles sortent à midi? Eh bien, les abeilles sortent à midi. Donc, les abeilles ont la perception du temps. Et d'autres chercheurs se disent, non, peut-être que c'est la chaleur de la pièce, en fait, avec le soleil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ruche, la mettre dans une mine sous terre, où la température est constante, et voir, est-ce que ça marche. Pas les mêmes équipes, hein. À chaque fois, c'est une équipe qui disait, non, vous n'avez rien prouvé, nous, on va faire mieux. Ça a duré vraiment très longtemps. Et donc, ils descendent la ruche dans une mine. Ils entraînent les abeilles à sortir à midi, puis ils enlèvent le truc, et les abeilles sortent à midi. Et ils disent, voilà, les abeilles ont une perception du temps, c'est clair, net et précis, et quelqu'un dit, non, c'est pas aussi simple que ça, peut-être que les abeilles se dirigent avec le champ magnétique de la Terre, un peu comme les chauves-souris, ils ont une sorte de sens en plus, par exemple, nous, on n'a pas un sens de détection des champs magnétiques. Certaines personnes disent qu'elles l'ont, mais en tout cas, on l'a pas tous, donc on peut pas rentrer dans ce débat. Et donc, on arrive à la fin de notre expérience, des chercheurs qui sont français, et là on est je pense en 1940 ou 1950, vont prendre la ruche, entraîner les abeilles à sortir à midi à Paris, les mettre dans un avion, les faire voler à New York pour voir s'ils ont un jet lag. Et il se trouve que quand les abeilles sont à New York, elles sortent à 18h, pas à midi. Et donc on découvre que les abeilles ont une horloge interne. Mais l'horloge interne, c'est pas la perception du temps, c'est un temps qui est subjectif. Donc c'est un temps qui est différent de le temps de notre montre. Donc on n'a pas ni nous ni l'abeille un sens du temps, mais on a une horloge interne qui nous aide. C'est pas ça le sens qu'on cherche, on cherche encore deux sens, c'est pas du tout le sujet de la conf. Je pense qu'on va passer 20 minutes dessus. J'essaie encore deux fois et puis je vous donne. Oui. L'équilibre, on l'a dit déjà, c'est la proprioception. Alors on a, oui, la douleur, absolument, ce qu'on appelle la nociception, parce que c'est pas vraiment la douleur, c'est l'émotion en fait qui vient quand on a mal, mais les capteurs s'appellent la nociception. On a besoin de savoir si on a un dégât qui a eu lieu dans notre corps. Et la dernière, je vais vous le dire comme ça, on peut passer à autre chose, c'est la thermoception, notre capacité à sentir la chaleur. Si le chaleur, est-ce qu'il fait froid? Pendant longtemps, on pensait que la chaleur, c'était le toucher. On a découvert que pas du tout, et une de mes illusions. Parce qu'il y a des illusions optiques, on va voir quelques illusions optiques juste maintenant, mais on a des illusions qui peuvent toucher tous nos sens. On a des illusions de douleur, on a des illusions olfactives, on a des illusions haptiques, et mon illusion perceptive préférée, implique la thermoception et le toucher. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, quand vous allez laver votre linge, vous le touchez et vous ne savez pas s'il est froid ou s'il est mouillé. Ça, c'est une illusion de calcul un peu dans votre cerveau entre le toucher et la thermoception. C'est qu'on n'a pas un sens hydrique, on n'a pas un sens de l'eau. On ne peut pas savoir si quelque chose est mouillé. Notre cerveau, si quelque chose est mouillé à partir du toucher et de la température, et, il y a une sorte de point très, très précis où vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas faire la différence. J'aime beaucoup cette idée. On est des gens un peu bizarres. Et donc, le sens ne sont pas parfaits. On ne voit pas le monde exactement comme il est. Il y a toute une palette du spectre de lumière qu'on ne voit pas. On ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les ultraviolets, on n'entend pas toutes les fréquences. Et donc, même à un niveau perceptif, on n'est pas en train de voir le monde exactement comme il est. On a tendance à croire que notre perception, c'est que reconstruction. Genre là, je vous regarde, il y a des photons de lumière qui rebondissent sur votre peau, ou sur vos habits, ça touche ma rétine. Ma rétine est une membrane qui est sensible aux photons. Ça va transformer ce signal en un signal électrique qui va aller le long de mon nerf optique, aller à mon cortex occipital, qui va traiter cette information, reconstruire l'image, l'envoyer à mon cortex préfrontal, et bim, vous allez apparaître dans ma tête. Et pendant longtemps, on pensait que c'est comme ça que fonctionne la vision. On appelle ça l'approche bottom-up, que bottom, ça veut dire le bas, up, le haut, et les choses viennent de l'extérieur et remontent à mon cerveau. Que l'information est tout le temps en train de remonter de mon système nerveux périphérique à mon système nerveux central à travers les sens. Sauf que, on a découvert récemment que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Par exemple, si je vous montre cette image, quelle voiture est la plus grande? J'imagine que vous voyez tous que cette voiture est plus grande que celle-ci, mais il se trouve que c'est exactement la même voiture. Je peux vous le prouver, vous pouvez voir, genre, c'est exactement la même. Et ce qui est intéressant avec cette illusion, c'est que contrairement à notre illusion de la barrière, donc notre illusion de la barrière fait partie de la famille de ce qu'on appelle les illusions qui s'effondrent, collapsible en anglais, et ça fait partie de ces illusions qu'on appelle non-collapsible, qui ne s'effondrent pas. Parce que même si je vous ai prouvé maintenant que ces trois voitures sont exactement les mêmes, même si je l'ai déjà prouvé à moi-même plein de fois, et ben ça ne change pas grand-chose, je les vois quand même une plus grande que l'autre. Et la question devient pourquoi? Pourquoi est-ce que cette illusion, pourquoi est-ce que ce genre d'illusion de plus fonctionne? On sait comment ça fonctionne. Ça fonctionne par la perspective. En gros, pour notre cerveau, on n'a pas un sens pour évaluer la taille des choses. Tout simplement, c'est un truc hyper intuitif qu'on a rentré tôt. Les choses qui sont plus proches de moi paraissent plus grandes que les choses qui sont plus loin. Si j'avais une personne qui était assise au dernier rang, qui fait la même taille que les personnes qui sont assises au premier rang, pour mon cerveau, cette personne est une géante. Et donc, mon cerveau va augmenter sa taille. Si vous avez une voiture qui est proche de vous, une voiture loin, et la voiture qui est loin, est de la même taille dans le monde réel que la voiture qui est proche, votre cerveau va écraser le réel et agrandir pour que ce soit cohérent avec les règles qu'on connaisse. Et donc on a découvert que notre perception n'est pas quelque chose de passif, n'est pas juste de la reconstruction, mais c'est aussi de la prédiction. Notre cerveau prend ce qu'il sait du monde et colorie ces trous dont on a parlé qui manquent selon notre connaissance de comment fonctionne le monde. Notre perception est en permanence une sorte de prédiction qui met le réel avec une sorte de surcouche, comme un filtre dans les téléphones portables. Il y a tout le temps un filtre qui est en train d'être mis sur le réel, sur toutes vos perceptions. Anil Seth, un des meilleurs chercheurs qu'on a sur la conscience justement, dit que c'est une sorte d'hallucination contrôlée. On est tout le temps en train d'halluciner le réel, mais de manière contrôlée, avec des règles très précises qu'on a appris implicitement au cours de notre vie. Et ça va avoir des conséquences assez importante sur comment on forme nos opinions. On va faire une dernière illusion d'optique qui va nous servir de tremplin pour passer de nos sens à notre cognition. Et l'illusion est la suivante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on va essayer de l'expliquer. Et ma question pour vous, avant qu'on commence, va être très très simple. Il va peut-être y avoir une sorte de chaos dans la salle, mais ce n'est pas grave. Je veux juste que les personnes qui voient cette danseuse tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lèvent la main. Si vous la voyez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous levez la main. Bon, normalement, on a 15 ou 20% d'entre vous qui ont levé la main, ce qui semble être le cas. Donc, je vous ai dit qu'il va y avoir un chaos dans la salle. Mais... Et tous les autres, vous la voyez tourner dans le sens des aiguilles du monde. Donc là, on a déjà un premier problème. C'est qu'on est en train de regarder la même chose, et on ne voit pas la même chose. Les gens pour qui ça change, la danseuse ne change jamais. Ce qui change, c'est votre cerveau. Et je vais vous le prouver, et on va en parler. Regardez, je vais faire un mini truc.
C'est fou,
je vais faire ça. Maintenant, si vous regardez à droite et au centre, pour tout le monde, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde. Ok ? Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire ça. Et maintenant, si vous regardez à gauche puis au centre, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens des aiguilles du monde. C'est bon pour tout le monde?
Oui.
Ok, et maintenant je vais faire la totale. Vous ne croyez pas que je suis en train de tricher avec cette danseuse? Je vais faire ça. Et maintenant, si vous regardez à droite puis au centre, elle va tourner dans un sens. Si vous regardez à gauche puis au centre, elle tourne dans un autre sens. Et chacun et chacune d'entre vous peut lui faire changer de sens quand il ou elle veut. Il suffit juste que vous regardiez à droite puis au centre, puis à gauche puis au centre.
C'est bien, moi.
Et ma question pour vous est très simple. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment ça marche?
Oui.
Je vous entends pas.
Pardon.
Oui. Non, c'est pas le fond. Non, non, vous avez raison. Si on veut refaire, donc je vais réexpliquer la réponse de monsieur, mais avec les mots que l'on a utilisés aujourd'hui. En gros, la danseuse du centre, c'est ce qu'on appelle un stimuli incomplet, il lui manque de l'information. L'information qui manque est très simple. Vous avez un mouvement en trois dimensions, vous n'avez pas de marqueur de profondeur. Votre cerveau ne sait pas quelle jambe est en train de passer, quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière. Genre, est-ce que là c'est derrière ou devant, est-ce que là c'est derrière ou devant. À gauche et à droite, on a rajouté de l'information. L'information d'entente, c'est de l'information de profondeur. Et vous voyez le bleu passer devant puis derrière, ce qui fait un sens de rotation. Et là, le rouge est devant puis derrière, ce qui fait un autre sens de rotation. Le mot technique pour cette danseuse est ce qu'on appelle un stimuli ambigu. Il est ambigu parce qu'il lui manque de l'information. Et dans le cas de notre danseuse, on appelle ça un stimuli ambigu bistable. Elle est bistable parce qu'on peut la stabiliser de deux différentes manières. Ce qui va se passer est très mécanique, c'est très bête, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a rien du tout. Quand vous regardez quelques millisecondes ici, vous allez former ce qu'on appelle un a priori visuel. Et votre cerveau va stabiliser l'ambiguïté en prenant cet a priori et en stabilisant avec cet a priori-là. Si vous regardez quelques millisecondes ici, vous allez former un autre a priori visuel. Vous allez stabiliser avec cet a priori-là. Est-ce que c'est clair?
Oui.
C'est vraiment le cœur de la cognition humaine. Il faut. Je vais prendre le temps un peu d'expliquer. Oui. Alors, pour des raisons qui sont pas très importantes aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec gaucher, droitier, c'est des raisons de traitement de l'information visuelle. Je vous avoue, on ne comprend pas très bien pourquoi sur cette illusion c'est comme ça, mais on sait que ça se décode un peu comme ça. Vous avez sûrement vu sur Internet, par exemple, parfois des polémiques sur la robe blanche et dorée, ou bleue et noire, etc. Tout ça, c'est le même principe, c'est des stimuli qui sont ambigus, et donc on complète de notre cerveau. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est que quand vous n'avez pas les a priori, vous ne voyez pas les deux. Votre cerveau stabilise quand même. On est tout le temps en train de stabiliser. Parce qu'il y a des informations manquantes. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, je vous ai dit que le réel est tout le temps incomplet. Et donc, il y a des philosophes de l'esprit. Quand je parle de philosophes, on est tout le temps en train de parler de soit des philosophes des sciences, soit des philosophes de l'esprit. Genre pour ceux qui veulent aller chercher des références. Il y a certains philosophes de l'esprit qui disent si on appelle ce stimuli un stimuli ambigu bistable, le réel est ce qu'on peut appeler un stimuli ambigu multistable. Il n'y a pas juste deux manières de stabiliser, il y a une multitude de manières de stabiliser. Certains vont jusqu'à dire qu'en fait, il y a autant de manières de stabiliser le réel qu'il y a d'individus. C'est ça qui nous rend unique. En fait, qu'est-ce qui nous rend unique? Vous êtes unique comme tout le monde. Et vous êtes unique dans la manière dont vous complétez le réel. On a chacun une sorte de grille de lecture unique à lui ou à elle qui fait qu'on colorie comment ça se passe. Par exemple, si on prend cette lecture des choses, genre, si une personne a ses a priori-là, une personne a ses a priori-là, elle se retrouve dans cette situation, elles ne vont pas être d'accord. Elles ne sont pas d'accord, pas parce qu'elles ne sont pas d'accord, elles ne voient pas la même chose. Et donc, certaines personnes défendent l'hypothèse que notre personnalité, d'un point de vue des sciences cognitives, ou dans certaines branches de sciences cognitives, pour être plus précis, en fait, notre personnalité, c'est juste une description de comment est-ce qu'on stabilise l'ambiguïté du réel, comment est-ce qu'on complète des informations incomplètes. Je vais vous dire qu'est-ce que je veux dire par là. Par exemple, imaginez une personne qui est jalouse. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Genre, d'un point de vue formel, c'est quoi être jaloux? Être jaloux, c'est une description de comment certaines personnes complètent l'information incomplète. Par exemple, imaginez que moi je suis jaloux. Donc c'est un set d'a priori que j'ai dans ma tête. J'appelle la personne avec qui je suis en couple. Cette personne ne répond pas. Elle ne répond pas, c'est un stimuli ambigu. Je n'ai pas accès à pourquoi elle ne répond pas. Être jaloux, c'est stabiliser cette interaction en disant elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. Ne pas être jaloux, c'est faire l'hypothèse qu'elle ne répond pas parce qu'elle est occupée. C'est quoi une personne optimiste? Une personne optimiste, c'est une description de la stabilisation de l'ambiguïté du futur. Le futur, par définition, est incertain, parce qu'il n'est pas encore là. Une personne optimiste, c'est une personne qui stabilise le futur en se disant « ça va bien se passer ». Une personne pessimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant « ça va mal se passer ». Votre trait de personnalité, c'est une description de comment est-ce que vous complétez les informations qui manquent tout le temps. dans nos perceptions et dans nos cognitions. On est tout le temps, tous et toutes, en train de stabiliser, avec nos a priori, le monde. Nos a priori étant tout ce qui fait que je suis. Ma culture, mes opinions, mes potes, les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus, si j'ai déjeuné ou pas, s'il fait chaud ou froid dans la pièce, des tonnes de facteurs qu'on n'arrive même pas encore à isoler. Un autre exemple, si vous en milieu bistable que vous connaissez tous, c'est le fameux canard lapin. Si vous pensez à un canard, voyez un canard. Si vous pensez à un lapin, voyez un lapin. Maintenant, imaginez qu'on rencontre une personne qui ne sait pas c'est quoi des lapins. Elle voit juste des canards. Une personne qui ne sait pas c'est quoi des canards voit juste des lapins. Une personne qui ne sait pas c'est quoi des canards ni des lapins, elle voit une image avec des traits noirs sur un fond blanc. On est tout le temps en train de stabiliser des ambiguïtés qui existent. Par exemple, moi j'ai fait... Donc on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde tel que nous sommes. On est tout le temps en train de mettre de soi dans le monde. Attention, je ne veux pas tomber dans une vision relativiste du monde. Ça ne veut pas dire que chacun est en train de créer ce qu'il a envie de créer. Il y a une sorte de règle à cette, un peu à cette folie, à cette hallucination contrôlée, comme dit Annie. Plus une situation est ambiguë et incertaine, plus je peux lui attribuer le sens que je veux. Et moins une situation est ambiguë et incertaine, et moins je peux lui attribuer le sens que je veux. Quand vous comprenez cette fonction, beaucoup des choses qui étaient très bizarres avant la pandémie deviennent beaucoup plus claires. C'est-à-dire, par exemple, Covid apparaît, c'est un nouveau virus dont la majorité d'entre nous n'avait jamais entendu parler. Quasiment tout le monde, j'imagine. Ça veut dire que c'est quelque chose de très très incertain et très très ambigu. Ben, vu qu'il y a un virus qui est incertain et ambigu, ça permet à chacun de lui donner le sens qu'il veut. Pour certaines personnes, c'est le pangolin, pour d'autres, c'est les Illuminati, pour d'autres, c'est une conséquence directe de la destruction des habitats, de l'habitat naturel qui nous rapproche de virus, pour d'autres, c'est une fuite du laboratoire chinois, peut-être par l'Institut Pasteur, ou que sais-je. Ça, c'est possible. Parce que c'est incertain, parce que c'est nouveau. Même chose pour le vaccin. Certains, le vaccin, c'est la panacée. Pour d'autres, c'est des puces de 5G, etc., etc. Par Pfizer. Ces mêmes personnes n'ont aucun problème à prendre du Viagra, par exemple. Alors que le Viagra, c'est Pfizer aussi. C'est quoi la différence? C'est que, un, est stabilisé. Donc, il y a moins de chances de projeter ce qu'on a envie de projeter dessus. Et l'autre est encore très incertain. Et donc, on peut projeter, selon nos croyances politiques, sur le sujet. Et ça, on le fait pas juste sur des sujets sociétaux, on le fait tout le temps dans notre vie de tous les jours. Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse sur un trouble qui s'appelle la phobie sociale, l'anxiété sociale. C'est la peur de parler en public. Enfin, ce qui est un peu ironique, vu mon travail même. Et dans notre cognition sociale, on a trois ordres de pensée. Dans ce qu'on appelle la cognition sociale, vous avez trois ordres de pensée, qu'on appelle les pensées du premier ordre, du second ordre et du troisième ordre. Les pensées du premier ordre, c'est qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de sympa, que vous êtes joli, que vous êtes intelligent, que vous êtes drôle, etc. Les pensées du second ordre, c'est qu'est-ce que je pense des autres? Est-ce que je pense que les autres sont compétents, que les autres sont, fragiles, ou aidants, ou ont de la compassion? Et enfin, il y a mes pensées du troisième ordre. Mes pensées du troisième ordre, c'est qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Est-ce que je pense que les autres pensent que je suis compétent, que je suis sympa, etc. Et il se trouve que j'ai jamais accès à ce que les autres pensent de moi. Donc, pour faire simple, j'espère que je vous perds pas, mes pensées du troisième ordre, peuvent être soit proches, soit très loin de vos pensées du second ordre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de moi et qu'est-ce que je pense que vous pensez de moi peuvent être soit appareillés, soit très éloignés. Il se trouve que quand on a une phobie sociale, c'est une description de certains a priori, quand on a une phobie sociale, nos pensées du troisième ordre, donc la manière dont on stabilise l'ambiguïté des pensées du second ordre des autres, sont tout le temps sur un versant négatif. Je vous regarde, vous avez les bras croisés, imaginez que j'ai une anxiété sociale, je me dis, il a les bras croisés parce qu'il s'ennuie, et il se dit, pourquoi est-ce que je me suis mis au premier rang? Si je m'étais mis derrière, j'aurais pu m'enfuir. Vous avez aussi les bras croisés, je me dis, merde, tout le monde a les bras croisés, tout le monde se fait chier, comment est-ce que je vais faire? Je vais avoir mon cœur qui s'accélère, je vais commencer à suer, et peut-être je vais vous dire, en fait, je me sens pas très bien, je vais m'enfuir et plus jamais revenir à Valence. Inversement, imaginez que moi, je suis pas du tout phobique sociale, je suis le mec le plus arrogant au monde, je pense que c'est une énorme erreur d'inviter Étienne le mois prochain, il peut juste m'inviter à moi tout le temps, tout le temps. Et là, vous avez les bras croisés, je me dis, il a les bras croisés parce qu'il est hyper concentré, en fait. Il est en train d'essayer, il est sous le choc de la lumière qui émane de moi, et il se dit, bah, il faut que je me mette un peu plus loin, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir prendre tellement d'intelligence dans la figure. Entre ces deux extrêmes, où je pense que vous pensez que je suis nul, et je pense que vous pensez que je suis le mec le plus brillant au monde, vous n'avez pas changé. Ce qui a changé, c'est mes a priori. C'est la manière dont je suis en train de stabiliser ces ambiguïtés qu'on est en train de faire tout le temps. Et donc la première brique de notre cognition, c'est qu'on est tout le temps en train de boucher des trous Et de la même manière que ce que vous avez dit, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, je n'ai pas une manière de savoir qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qui est en train d'être halluciné, en guillemets, par mon cerveau, et qu'est-ce qui est vraiment réel. Il y a des manières de le savoir. Par exemple, imaginez, moi, je pars de là en disant « ça s'est hyper bien passé », et demain, je reçois un mec qui dit « en fait, il faut que je te le dise à l'heure, je suis vraiment d'après, mais tout le monde a trouvé ça nu ». Le réel va venir écraser mes ambiguïtés. Mais on n'a pas tout le temps ce feedback du réel. Je connais des personnes qui pensent qu'elles sont genre les personnes les plus intelligentes au monde, et tout leur entourage les trouve insupportables. Et elles ne vont jamais peut-être s'en rendre compte. Mais il faut savoir qu'on est tout le temps en train de faire ça. La manière dont on stabilise l'ambiguïté, dont on détruit l'ambiguïté du futur, du passé, le passé n'est pas du tout figé. Très bon ami à moi, Charles Pépin, je ne sais pas si vous avez déjà invité Charles, a écrit un livre récemment, Vivre avec son passé, où il explique très bien comment le passé est malléable. Donc, on a le même éditeur, donc on se connaît très bien avec Charles. Du passé, des autres, conditionnent mon fonctionnement. On est tous en train de stabiliser l'ambiguïté du monde en permanence. Une fois qu'on a stabilisé le monde, notre cerveau met ce monde en vessie, il nous compte des histoires. Quand je vous dis notre cerveau nous compte des histoires, c'est au sens littéral. Un autre chercheur brillant qu'on a en France s'appelle Lionel Nakache. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez invité Lionel.
L'année prochaine,
il a écrit un livre qui s'appelle Le cinéma intérieur, où il explique vraiment comment notre cerveau fonctionne un peu comme un cinéma. On met en récit notre journée. Par exemple, moi aujourd'hui, ma journée, je ne me rappelle pas de tout. Je me suis réveillé, je suis allé aider un ami, puis je suis allé dans le train, et puis il y a un code comme dans un film. Je suis arrivé à Lyon, j'ai fait mon changement code, je suis arrivé à Valence, code, je suis arrivé ici. On nous compte des histoires, et là aussi, la manière dont on met en récit le monde impacte la manière dont on fonctionne, et on arrive maintenant à la prise de décision. Donc on a stabilisé l'ambiguïté, on a coloré le monde avec nos a priori, on s'est raconté une histoire, il faut qu'on prenne une décision. Et pour prendre une décision, notre cerveau utilise une stratégie qu'on appelle les heuristiques. Les heuristiques, c'est quoi? Je ne pense pas que vous êtes familier particulièrement si vous ne connaissez pas de la littérature sur le sujet avec le mot, ça n'a rien à voir avec les cartes heuristiques. Une heuristique, c'est une solution approximative pour un problème, mais qui marche bien. Par exemple, imaginez que moi, le problème auquel je veux faire face, c'est que je veux pouvoir jeter ma bague et la rattraper. Ben, j'arrive à le faire. Je peux le faire pendant quelques fois et ça va marcher relativement bien, mais si vous regardez, je suis incapable de faire deux fois le même lancer. C'est approximatif, mais ça marche relativement bien. L'avantage des heuristiques, c'est que je gagne en efficience. Si je devais à chaque fois calculer la force avec laquelle je dois lever la main, à quel moment je dois préciser, je dois ouvrir les doigts pour que la bague continue avec son inertie, où est-ce que je dois mettre ma main et calculer l'angle avec laquelle la bague va redescendre, ça prendrait trop de temps, on serait mort. On fait ça un peu à la louche. Pour marcher, mon cerveau ne calcule pas la force à laquelle je lève la jambe, combien je l'avance, etc. Je marche et parfois je me prends le coup de pointe de la table. Parfois je jette ma bague et je ne l'attrape pas. Notre décision fonctionne de la même manière. C'est pour ça que parfois vous avez des lapsus. C'est pour ça parfois que vos démos vous échappent, etc. On fonctionne de manière heuristique. L'avantage des manières heuristiques, c'est qu'on gagne en efficience, mais le prix, c'est qu'on perd un peu en précision. Et c'est un. On appelle ça un trade-off en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. C'est une sorte de compromis, merci beaucoup, c'est une sorte de compromis qui est largement avantageux pour notre espèce. Et donc, on peut dire que notre cerveau fonctionne de deux manières, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On approxime et on prédit. On fonctionne de manière approximative et prédictive. On prédit pour pouvoir préparer l'action et on fonctionne de manière approximative pour être efficient. Il y a un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman qui a hypothétisé que du coup, on a deux systèmes de pensée. Il appelle les systèmes 1 et les systèmes 2, pardon, un système qui est plutôt rapide, heuristique, intuitif, et un système plus lent, qui demande plus d'efforts pour qu'on puisse, quand on a besoin, activer un peu plus notre machinerie intellectuelle. Il faut savoir que ce modèle est là aussi approximatif, on n'est pas sûr que ça marche comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails des débats de la littérature, mais pas tout le monde est d'accord que ça marche vraiment comme ça, c'est une sorte de métaphore, mais parfois, en science, on utilise des métaphores parce qu'elles sont ce qu'on appelle fécondes, c'est-à-dire elles nous aident à comprendre comment ça va marcher, quitte à les abandonner après. Si vous voulez sentir votre système 1 et votre système 2 fonctionner, on peut faire un autre jeu ensemble, qu'on appelle la tâche de Stroop. La lecture est quelque chose pour lequel vous êtes énormément entraîné, donc vous arrivez à le faire assez vite. Et donc si vous essayez de lire les mots sur cet écran, sur cette projection, pardon, sur cette diapo, vous allez réussir probablement sans problème. Ça fait jaune, rouge, jaune, vert, bleu, vert, jaune, rouge, bleu. Maintenant, je vais vous demander de faire autre chose, on peut essayer de le faire tous ensemble. Au lieu de lire le mot, je vais vous essayer de lire la couleur, de dire la couleur de la police avec laquelle le mot est écrit. Donc par exemple, ça fait jaune, vert. C'est galère un peu, hein? Ce que vous êtes en train d'essayer de faire, c'est d'inhiber ce qu'on appelle vos pensées automatiques et d'activer quelque chose de plus déclaratif. En fait, maintenant je peux vous dire, on a deux types de pensées. On a ce qu'on appelle nos pensées automatiques, c'est les pensées qui apparaissent toutes seules dans notre tête. On a un deuxième set de pensées qu'on appelle notre métacognition. C'est la petite voix avec laquelle vous parlez dans votre tête. Et parfois, il faut faire un effort pour inhiber, il faut apprendre à résister à ces pensées automatiques. Et une grande partie de ce sur quoi je travaille, le deuxième pan de mot officiel sur lequel je travaille, s'appelle le raisonnement critique. Une grande partie du raisonnement critique, c'est d'apprendre à résister à nos émotions, à nos intuitions, à nos cognitions automatiques. Parce que je suis pas du tout fan de la raison et au-dessus des émotions, etc. C'est un peu la même chose. La majorité du temps, vos émotions et vos intuitions viennent valider vos cognitions, ou vos cognitions viennent valider vos intuitions et vos émotions. Et le but, c'est d'apprendre, dans certaines situations, à résister à ces pensées automatiques, à ces cognitions automatiques. Par exemple, je suis jaloux, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, elle répond pas, mon cerveau automatique, prédictif et approximatif me dit, elle te trompe. Je peux apprendre à résister, à ne pas croire toutes ces hypothèses que mon cerveau est en train de faire. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à résister? Pour une raison très simple, c'est que parfois on se trompe. Et quand nos heuristiques se trompent, on appelle ça des biais cognitifs. Des biais cognitifs, c'est une sorte d'heuristique qui, dans un contexte particulier, ne fonctionne pas de manière efficiente. Là où les heuristiques sont supposées être des solutions approximatives qui marchent bien, dans certains contextes, une heuristique qui pourrait très très bien marcher dans une situation devient délétère dans une autre. Il faut savoir que les biais sont tout le temps contextuels. C'est tout le temps une sorte de rencontre entre un cerveau et un contexte. Oui. Alors la zététique, c'est une forme de raisonnement critique, oui. Absolument. Sauf que la zététique, c'est une sorte de mouvement social, donc, alors que le raisonnement critique, c'est une branche de la recherche. Donc des biais cognitifs affectent la prise de décision, et ce qu'on va faire pour le temps qui nous reste, je ne sais pas combien de temps il nous reste, j'ai tendance à faire exploser le temps qui nous reste. Mais... Non, mais j'ai là. Ok, il est 21h. On a encore pour d'être genre 10-15 minutes. C'est bon. Et donc, on a identifié des tonnes et des tonnes et des tonnes de biais. Et ces biais sont prédictibles. On peut savoir comment on va être biaisé. Donc, il y a le stéréotypage, le statu quo, l'ancrage. On va voir quelques-uns. Ça va faire une listing de tous les biais. Vous pouvez aller sur Internet, il y a des tonnes. Mais par exemple, on peut prendre l'optimisme, parce qu'on a déjà mentionné l'optimisme. Donc, on a dit que l'optimisme, c'est une stabilisation de la réalité du futur sur un registre positif. C'est quelqu'un qui se dit, ça va bien se passer. Et on peut imaginer que l'optimisme, c'est une heuristique utile, genre, on a envie que les gens soient optimistes. C'est quelque chose qui est désirable. Mais, toute heuristique peut être aussi un biais selon le contexte. Et maintenant, je vais vous imaginer une personne optimiste que vous emmenez au casino. Qu'est-ce qui va se passer avec un optimiste au casino? Donc, l'optimiste va au casino, il joue à la roulette, il perd, mais il est optimiste. Donc il se dit, au prochain coup, je vais me rattraper. Donc il rejoue, il repère, et il rentre chez lui fauché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un heuristique d'optimisme dans le casino, qui est un environnement qui est créé pour lui faire perdre son argent, devient un biais d'optimisme. Le stéréotypage, par exemple, pendant longtemps, le stéréotypage probablement nous a aidé à survivre. Si moi, par exemple, je suis chasseur-cueilleur, et j'ai l'habitude de manger des champignons bleus, j'adore ça, et un jour je tombe sur un champignon jaune, et je me dis, tiens, je vais essayer le champignon jaune, je mange le champignon jaune, j'ai hyper mal au ventre, je vomis toute la nuit, je me dis, je vais mourir, mais je survis. C'est très bien d'avoir une heuristique, un stéréotypage, qui dit, à partir de ce moment-là, je vais éviter les champignons jaunes. Je vais pas me dire, non, je vais pas discriminer contre les champignons jaunes, peut-être qu'il y a des champignons jaunes qui sont plus sympas que d'autres, je vais me dire, j'évite les champignons jaunes, et ça va très bien marcher. Par contre, si j'applique le stéréotypage sur des humains, si j'essentialise les humains à leur couleur de cheveux, à leur couleur de peau, à leur croyance religieuse, à leur etc., ben dans ce cas-là, le stéréotypage devient un biais énorme qui est à la base de la discrimination. Une même heuristique peut être utile dans certaines situations, mais peut être complètement délétère dans une autre. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les moments où ces heuristiques sont délétères, on va faire une sorte de 4, 5, 6 biais cognitifs de différentes disciplines et de différents domaines, et après on va faire notre conclusion. Donc on va commencer par un biais qui s'appelle le biais d'amorçage. Colgate, dentifrice, produits dentaires, etc., ont mis une pub en ligne il y a quelques années sur laquelle il y avait une erreur assez marrante. Est-ce que vous pouvez la voir? C'est quoi? Attends, pour une pub de dentifrice, il y a un problème dedans. Et là, vous êtes tous tombés et toutes tombées victimes du biais d'amorçage. Vous avez parlé de Colgate, on a des ressources limitées. Donc vous avez regardé les dents. Et le vrai problème de cette image, c'est cette main, elle est acquise. Si je ne vous avais pas dit Colgate, vous avez probablement trouvé la main. Parce que vous s'en foutrez les dents. Mais le fait que je vous dise Colgate, ça vous piège. Et donc c'est ce qu'on appelle un biais d'amorçage. Vu qu'on a des ressources limitées, j'ai orienté votre attention sur les dents, et donc, je vous fais tomber dans le piège de l'amorçage. Un autre biais très commun, qui est souvent utilisé dans le marketing aussi, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage. C'est une expérience qu'on a faite dans une cinéma il y a quelques années. On a mis à la vente un popcorn à 3 euros, un popcorn à 7 euros. On a laissé courir, et on a allé demander aux gens pourquoi est-ce que vous êtes en train d'acheter le popcorn que vous allez acheter. C'est très important d'avoir accès aux motivations déclaratives des gens. Et donc, quand on a fait ça, la majorité, je pense, je me rappelle plus trop des chiffres, mais je pense qu'à peu près 70% des gens ont acheté le popcorn à 3 euros. Et quand on leur demandait pourquoi ils étaient en train d'acheter le popcorn à 3 euros, ils disaient, 7 euros le popcorn, c'est une arnaque. Je ne suis pas con, vous faites chauffer des grains de maïs, vous voulez me faire payer 7 euros. 3 euros, c'est très plat, la taille est très bien, tout me va. On dit, ok, très bien. La semaine d'après, on n'a pas touché à la taille du popcorn ni à son prix, mais on a changé le cadrage de l'information. Qu'est-ce qu'on a fait? On a, ping, introduit un nouveau popcorn à 6,50. Et là, soudainement, on a eu... Ça, c'est devenu le petit popcorn, le popcorn moyen, le grand popcorn. Donc, encore une fois, la taille, le prix n'a pas changé du tout. C'est encore la même quantité de popcorn, le même prix. Sauf que là, on a vu nos ventes se déplacer de 70% ici. Encore une fois, je n'ai pas les chiffres, donc vous pouvez oublier, mais en dites-vous beaucoup. À peu près 50 ou 60%, pas à 6,50, mais à 7 euros. Et quand on allait demander aux gens, pourquoi vous êtes en train d'acheter le popcorn à 7 euros? Ils vont dire, le petit popcorn, c'est vraiment pour les nuls. On va être fini avant même la fin des bandes annonces. 6,50 le popcorn moyen, je suis si proche du but, je peux mettre 50 centimes en plus, et je prends le 7 euros. Et parfois, ces recherches, par exemple, ces recherches-là ont mené à ce qu'on milite pour une loi qui est passée il y a quelques années. Peut-être que vous n'avez pas su, mais vous l'avez sûrement remarqué. C'est que c'est grâce à nos recherches qu'on a fait passer une loi qui, je pense, était au début en France, mais qui maintenant est européenne, sauf si je dis des bêtises, je vous avoue que j'ai pas trop suivi, où vous avez vu apparaître au supermarché sous le prix au kilo. Vous avez vu grâce à ça. Parce qu'il y avait des marques qui s'amusaient, par exemple, à mettre format familial, et c'était plus cher que le format pas familial. Mais vous faites le raccourci que format familial, ça veut dire format économique. Et dans la loi, ils ont le droit de mettre format familial. Ils n'ont pas le droit de mettre format économique si c'est plus cher, mais format familial, ça passe pas. Il y a une boîte, une compagnie de céréales qui, elle, est allée au-delà du taf. C'est qu'ils ont commencé à vendre une boîte de céréales qui faisait, je vais inventer les chiffres, mais vous allez comprendre l'idée, de 500 grammes à genre 4,50 €. Et quelques mois plus tard, ils ont commencé à mettre genre 475 grammes, gardé à 4,50, puis 450 grammes, puis 425 grammes. Ils sont descendus jusqu'à, je pense, à 350 grammes avant que quelqu'un réalise ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que vous allez acheter votre boîte de céréales, vous voyez que le prix est le même, le package est le même, la boîte est la même taille, ils n'ont pas raccourci, ils ont juste mis moins de trucs dedans, et vous continuez à l'acheter, et vous êtes en train de vous faire arnaquer quasiment quotidiennement. Donc on a fait une règle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'équivalent de notre danseuse. On a augmenté l'information disponible pour vous réduire l'ambiguïté que vous êtes en train de réduire. On a mis le prix au kilo, parce que ce serait un peu de mauvaise foi de se dire le consommateur n'a que à faire des règles de 3 au supermarché pendant qu'il fait ses courses. Et on s'est dit, ok, on met l'information. Malheureusement, les biais n'ont pas juste un impact sur le marketing. Les marketeurs ont découvert les biais bien avant les neuroscientifiques et les sciences cognitives. Mais ça ne s'arrête pas là. Les biais ont parfois aussi des conséquences éthiques et morales. Par exemple, ça, c'est une expérience qu'on a faite avant Covid. Donc, on ne savait pas qu'il allait y avoir une vraie pandémie dans le monde quand on a fait cette expérience. Une épidémie s'est déclenchée dans notre pays. Donc, c'est un pays qui compte 600 habitants. Okay, c'est juste pour que vous compreniez. Parce que je n'ai pas mis tout le texte de l'expérience. Mais une pandémie s'est déclenchée dans notre pays, on doit choisir quelle politique semble la plus raisonnable. Donc vous avez une population de 600 personnes, est-ce que vous préférez sauver 200 sur 600 pour sûr, ou est-ce que vous pouvez avoir une chance sur 3 de sauver tout le monde? Avant que vous me répondiez, si vous pensez que c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose. C'est juste que vous ne faites plus confiance, et je vous comprends. C'est pas du tout la même chose. Ici, vous sauvez 200 personnes sur 600 pour sûr, et ici, une chance sur 3 de sauver tout le monde. Laquelle vous préférez? Quand on fait ça en laboratoire, 72% des gens choisissent la A. Maintenant, ça va être la même chose. On a refait la même expérience, mais en changeant comment est-ce qu'on présente les réponses à AB. Au lieu de sauver 200 personnes sur 600 on va laisser mourir 400 personnes. Au lieu d'avoir une chance sur deux de sauver tout le monde, là, on a deux chances sur trois de voir tout le monde mourir. Et là, ce qui est intéressant, il n'y a plus que 22% de personnes qui choisissent A. Je vais les mettre une à côté de l'autre, ça va être plus clair. Une chance de sauver 200 personnes sur 600, c'est exactement comme laisser mourir 400 personnes. Une chance sur trois de sauver tout le monde, c'est exactement comme deux chances sur trois de voir tout le monde mourir. Les scénarios sont les mêmes, sauf que on a un déplacement de 150% des voix selon ce qu'on met en avant. Parce que quand on met en avant les gains, on a un biais qui s'active qui s'appelle l'aversion à la perte. On préfère ne pas perdre que gagner. Donc les gens préfèrent l'option certaine. Et quand on met en avant les pertes, on se dit, on va perdre, donc on va être plus ambitieux, on va prendre plus de risques. Et les gens préfèrent l'option à risque. Il y a 150% des voix sur deux scénarios qui sont exactement les mêmes. Et ça soulève évidemment énormément de questions éthiques et morales sur les sondages d'opinion, les enquêtes, comment est-ce qu'on pose une question, etc. Pour finir, avant de faire... Oui. Oui, c'est aussi un effet de cadrage, absolument. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec... D'ailleurs, c'est une très bonne question, parce que souvent, on se retrouve avec des légumes qu'on jette, parce qu'ils sont juste pas beaux. Parce que personne ne choisit. Vous allez choisir vos carottes, il y a une carotte qui est genre un peu comme ça, et personne ne la prend. Oui. Est-ce que... C'est bon?
Oui. Est-ce qu'on peut penser que c'est... Cette prise de position, elle ne serait pas plutôt culturelle, qu'elle de la prise d'une culture, est-ce qu'il n'y aurait pas des sociétés qui vivraient différemment de nous dans certains pays et qui auraient une analyse très différente?
Si, absolument.
Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas notre cerveau qui décide, c'est sa programmation.
Absolument, mais sa programmation, c'est lui aussi. En fait, là, on rentre dans une débat justement de ce type. C'est évidemment que c'est coloré, et c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un article fondamental qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui a jeté une sorte d'énorme pavé dans la mare des recherches en psychologie et en neurosciences et en tout ça. C'est un article qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle Are You Weird? Et Weird, en anglais, ça veut dire bizarre, mais en fait, c'est un acronyme pour, je vais vous dire les mots en anglais, puis je les traduis. Donc, c'est W-I-E-R-D, c'est White, Industrialized, Educated, Rich and Democratic. Donc, des populations blanches, industrialisées, riches, éduquées et démocratiques. Et ces chercheurs ont réalisé, en fait, qu'à peu près 90% des recherches en psychologie se font sur des populations qui correspondent à ce critère. Pas seulement ça, sur des populations qui correspondent à ces critères, et genre à peu près 50-60% sont des étudiants, parce que la majorité des participants qu'on recrute pour nos études sont des étudiants, souvent des universités américaines. Et quand ils ont essayé de répliquer plein d'expériences dans d'autres cultures, ils ont découvert que non seulement c'est pas la même chose, mais que plein d'autres cultures sont plus proches les unes des autres que le monde qu'on appelle le monde occidental. Et non seulement ça, dans le monde occidental, cette population qu'on étudie en psychologie est la plus éloignée du reste de la même population. Donc ces étudiants de Harvard, de Stanford, etc., sont très différents d'une personne lambda qui vit à New York. Donc effectivement, il y a tout un travail maintenant qui est en train d'être fait pour répliquer une grande partie de ces études, pour essayer de voir quels sont les déterminants communs, parce qu'il y a sûrement des déterminants communs à tous les humains, et quels sont les déterminants qui sont coloriés par la culture. Mais oui, par exemple, il y a une expérience très connue de jeu, où je vous dis, en fait, je vais vous la dire, ça va être très simple, le temps, on s'en fout. L'expérience est très très basique, je vous dis, en fait, je vais vous donner 100 euros, et vous devez partager ces 100 euros avec une autre personne. Mais il faut savoir quelque chose. Quand vous allez faire une offre à cette personne, donc c'est vos 100 euros à vous, quand vous faites une offre à cette personne, si elle accepte votre offre, vous prenez l'argent. Donc, par exemple, je vous propose de vous donner 50 euros et je garde 50 euros. Vous dites oui, vous avez les 50 euros et moi les 50 euros. Mais si la personne refuse votre offre, vous perdez tous les deux. Donc, si j'ai 100 euros et je vous dis je vais vous donner 5 et vous dites non, en fait, on perd tous les deux. Et ce qu'on a découvert, c'est que selon les cultures, le seuil d'acceptabilité est très différent. Il y a plein de cultures, par exemple, qui acceptent n'importe quoi. Si vous dites 1 euro, elles disent oui parce qu'elles disent j'ai 0. La personne est en train de me donner 1 euro. Pourquoi est-ce que je dirais non? Elle ne comprend même pas l'expérience. Genre, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer d'étudier? Vous êtes en train de dire qu'une personne vient, elle me dit tiens de l'argent, et je suis supposé lui dire non, parce que je pense qu'il n'est pas équitable, alors que c'est ses sous à lui. Alors que dans plein d'autres cultures, notamment les cultures occidentales, des personnes disent non même à 20, 30, 40 euros. Genre, plein de gens disent non si c'est pas 50-50, alors qu'il n'y a aucune raison de dire non, parce que si vous dites non, vous perdez tous les deux. Mais on préfère tous les deux perdre que me sentir que je me suis fait avoir avec l'argent qui n'est même pas le mien. Et vraiment, quand on explique à des gens d'autres cultures, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils disent on ne comprend pas le jeu. Il est où le problème? Genre, je vais dire oui tout le temps. Vous dites 1 centime, oui. 2 centimes, oui. 1 euro, oui. 100 euros, oui. Je dis oui tout le temps. Et donc, oui, effectivement, il y a des différences culturelles. Et il y a certains effets où il n'y a pas de différences culturelles. Et on est tout en train de faire un énorme travail maintenant pour séparer qu'est-ce qui sont des déterminants communs, de qu'est-ce qui est culturel, de qu'est-ce qui est contextuel. Parce que dans une même culture aussi, je ne suis pas sûr qu'une personne qui habite à Valence, une personne qui habite à Lille, on les appelle tous français, mais la manière dont on a découpé la planète, c'est juste pour des raisons pratico-pratiques. Mais probablement qu'un Basque est plus proche d'un Espagnol que d'un Lillois, alors qu'on appelle tous les deux français et on appelle l'autre Espagnol. Encore une fois, aux États-Unis, ils ont découvert qu'il y a une énorme variabilité, parfois dans une même ville ou dans un même État. Une personne qui habite à New York, dans l'État de New York, et une personne qui habite à Rochester, dans l'État de New York, mais qui est genre vraiment au nord-nord de l'État, où c'est la forêt, quoi. C'est un peu comme une sorte de village, un écran, n'ont pas du tout les mêmes déterminants.
Aussi économique.
Oui, bien sûr. Culturel, économique, de tempérament, etc. Donc on est en train d'essayer de voir quels sont les facteurs qui modulent comment. Oui, bien sûr. Des classes économiques, ethnicité, âge, tempérament, etc. Et on va finir avec un dernier exemple, et puis on fera la conclusion, continuez. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez vous dire, en fait, c'est spécifique aux humains. Mais pas du tout. Les animaux ont des biais, les animaux ont des heuristiques, les animaux ont des cognitions. Les animaux fonctionnent un peu comme nous. Et donc, je vais vous montrer une expérience d'inégalité salariale chez les singes. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Comment est-ce qu'on paye les singes? On le paye avec la bouffe. Et on va voir une expérience. On va avoir deux singes qui vont être payés pour une même tâche. En gros, il faut qu'elles prennent la pierre et qu'elles nous la rendent. Et l'expérimentatrice va leur payer deux salaires différents. La première singe va être payée en concombre, un concombre c'est genre 90% d'eau, c'est comme si vous êtes en train de lui donner, je sais pas, 5 euros. Et la deuxième singe va être payée en raisin. Le raisin c'est plein de sucre, c'est comme si vous êtes en train de lui donner 100 euros. Les deux singes savent c'est quoi les concombres et c'est quoi les raisins. Au début, cette singe va prendre le concombre, elle va le manger, elle va être très contente. Puis elle va voir que cette singe est en train d'avoir des raisins. Son cerveau prédictif et approximatif se dit chouette, je vais avoir un raisin, mais elle va avoir un concombre quand même. Vous allez voir comment elle réagit. Donc la tâche est très simple, il faut qu'elle nous donne la pierre. Elle prend le concombre, elle le mange, il n'y a pas de souci. L'autre singe doit faire la même chose. Elle prend la pierre, elle nous la rend. Là, toujours pas de souci. Elle a un raisin, elle voit le raisin, elle dit chouette, je vais avoir un raisin. Donc elle veut faire très très vite, elle prend la pierre, elle la rend directement à l'expérimentatrice. Mais elle a un concombre, elle goûte, c'est pas un raisin.
Elle le crache.
Elle veut faire la crème. L'autre continue son bon bout de chemin à avoir des raisins. Elle a dit peut-être que j'ai mal fait mon taf. Donc elle prend la pierre, elle la tape pour tester. L'expérimentatrice lui dit non, c'est pas toi, c'est moi. Là, elle a même plus besoin de goûter. Elle prend la pierre, elle prend le concombre. Elle veut même pas le mettre en bouche. Elle est genre, je préfère ne pas manger que me faire avoir. C'est une sorte de déterminant. Vous pouvez faire des tours de magie à des chiens. La majorité des mammifères, on fonctionne comme ça et on n'a rien de particulièrement spécial. Pour finir, on va finir avec un graphique qui résume un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Quand on est exposé à une connaissance, quasiment rien ne reste à l'échelle de connaissance. Très vite, vous allez l'intégrer dans vos croyances, et ces fameuses cartes dont on a parlé. Une croyance sur laquelle vous voulez agir, c'est une intention. Une intention que vous manifestez dans le monde réel, c'est une action. Plein de pièges peuvent venir se loger sur ce graphique. Vous pouvez être exposé à de fausses connaissances, par exemple les fake news. Mais vous pouvez aussi, avec de bonnes connaissances, avoir une fausse croyance. Une personne est enrhumée, je la saigne, elle va mieux. C'est vrai. Mais croire que c'est la saignée qui l'a fait guérir, c'est une fausse croyance à partir de bonnes connaissances. Une croyance, vous pouvez avoir de bonnes croyances et pas vouloir agir dessus. Je suis fumeur et je ne suis pas suicidaire, mais je continue à fumer, alors que je sais que fumer me tue. Je peux rationaliser et donc je n'ai pas l'intention d'arrêter de fumer. Et enfin, je peux avoir une bonne connaissance, une bonne croyance, l'intention d'agir et pas réussir à agir. On a entre l'intention et l'action un concept qu'on appelle le true intention-action, le intention-action gap. Une forme de trop attention-action que vous connaissez tous et toutes, c'est la procrastination. Et moi, par exemple, j'étudie le trop attention-action face au réchauffement climatique. On a des intentions très fortes de la part de tout le monde, les citoyens, les gouvernements, les boîtes, les entreprises, tout le monde est dessus, la COP 20250, etc. Et on ne fait pas d'action, on essaie de comprendre pourquoi. Évidemment, ce graphique est hyper simplifié, le cerveau ne fonctionne pas du tout sur ce qu'on appelle une chaîne causale linéaire, A cause B, B cause C, C cause D, mais fonctionne sur le principe qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle, et ça ressemble plutôt à ça. Et donc tout est en train de se nourrir. Vos actions conditionnent vos actions futures, vos actions conditionnent vos croyances conditionnent vos intentions, etc. Pour finir, il faut savoir que plusieurs facteurs viennent moduler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On n'a pas eu le temps, je vous ai dit, on va juste se concentrer sur le macro, mais plein de facteurs viennent moduler ces heuristiques, aussi bien ce dont on a parlé, notre culture, notre contexte socio-économique, mais aussi mon état corporel, par exemple, est-ce que je suis stressé ou pas. Le stress est un grand modulateur de nos cognitions, mes normes sociales, le groupe de gens avec qui je suis, etc. Tout ça vient moduler. Il y a des tonnes de facteurs aussi dans le bouquin. En gros, là, vous avez eu les chapitres 1, 2, 3 de mon livre. Les chapitres 4, 5, 6, 7, 8, c'est différents facteurs qui viennent moduler. Donc, il y a un chapitre sur le stress, un chapitre sur la dissonance cognitive, sur le raisonnement motivé, etc. Pour finir, je vais finir avec deux citations que j'aime beaucoup. La première, c'est une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est de se dire « si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur ». Je sais que c'est une croyance très agréable et réconfortante, mais elle est fausse. On a besoin de différents a priori pour avoir une appréhension du réel qui est plus riche, plus complexe, et donc qui fait état de plein d'angles. On a besoin un peu d'être les garde-fous les uns des autres. Le raisonnement critique, c'est pas du tout penser par soi-même. Quand quelqu'un vous dit « pensez par vous-même », elle est implicitement en train de vous dire « faites-moi confiance ». Et en général, ne lui faites pas confiance. Le raisonnement critique, c'est penser contre son cerveau avec les autres. Donc on a besoin de penser les uns avec les autres. Une dernière citation que j'aime beaucoup, c'est une des idées les plus dangereuses. Non, c'est pas ça, ça j'ai déjà dit. C'est qu'est-ce que réfléchir, si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis. Réfléchir, c'est revenir sur ce en quoi je crois et pas juste confirmer ce que je crois déjà. Merci beaucoup. Donc j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Votre cerveau vous déco, vous pouvez l'acheter. J'ai un autre livre qui est sorti qui s'appelle Le cerveau pas bête. C'est des questions qui ont été posées par des lycéens, je pense, et où on répond avec des illustrations à genre une trentaine. Alors justement, est-ce que le cerveau des hommes et des femmes est similaire, est-ce qu'on peut vivre avec un cerveau ouvert, etc. Et j'ai fait un podcast qui reprend un peu cette conf, mais au lieu que ce soit des illusions d'optique, c'est des illusions auditives. C'est 6 épisodes de 10 minutes, donc ça prend une heure. Et on a gagné le prix du meilleur podcast l'année passée, donc si ça vous intéresse, c'est sur France Culture. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Merci Albert. Il y a un talent, Albert a beaucoup de talent, vous l'avez vu. Il y en a un qui l'a pas montré, mais il ne montrera pas ce soir. Il est magicien.
Ah oui, si vous voulez, je peux faire un tour de magie. En fait, quand on fait des tours de magie, on n'est pas en train de tromper les yeux, on est en train de tromper le cerveau.
Voilà, mais c'est.
Regardez, j'ai ma bague, je me mets dans mon doigt, j'enlève ma bague, elle disparaît, sauf que si je fais comme ça, elle revient.
C'est pas possible.
J'ai ma bague, je vais l'enlever très, très lentement. Hop, elle est là, je fais comme ça. Je reviens.
C'est comme le doigt.
Exactement. Je fais comme ça, j'enlève ma bague, mais en fait c'est le mauvais doigt. Après je fais comme ça et je remonte mon doigt.
Voilà, on s'était pas concerté, hein. Alors, quelques minutes pour les questions. Soit je passe le micro, soit vous parlez fort.
Parlez fort.
Allez.
Oui.
J'ai une question, en fait, j'ai bugué à votre location, donc je voulais parler.
Voilà, non, faut y aller.
Faut parler plus fort.
Oui,
le micro arrive.
Voilà, la présentation qui était passionnante. J'ai bugué parce que j'ai essayé de matérialiser votre présentation quand vous avez parlé du Covid.
Ouais.
Je suis aussi chercheur dans un autre domaine et en fait, vous êtes scientifique, vous êtes en train de démontrer que notre cerveau a des biais, parce que vous êtes heuristique. Donc on peut savoir qu'on comprend mal les choses et qu'on a des craintes. Vous êtes d'accord ?
Oui, absolument.
Et quand on est donc le fait de ne pas avoir de connaissances, on peut avoir des peurs. Quand on est arrivé au Covid, on n'avait pas de connaissances, on a eu des peurs. Donc, ok, j'ai pas de connaissances, j'ai des peurs, mais je peux les maîtriser. Et une manière de maîtriser, c'est d'aller vers la connaissance. Et où je veux en venir, c'est que pendant le Covid, il y a les chercheurs, il y a la science qui a essayé d'intervenir, ou de trouver des réponses à la situation de Covid ou au Covid. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, la science, on ne croit plus, en fait, la population ne croit plus. On préfère les politiques dire, vous êtes chercheurs, vous nous démontrez que le cerveau peut avoir des biais et nous mettre dans le mur. Et moi, je suis politique, je peux dire, ok, je vais essayer de rassurer la population, on ne connaît pas, mais tata. On préfère ne rien dire et discriminer la science. Et là, je bug, en fait. Vous voyez ce que je veux dire dans la
réponse? Je vais essayer de débug, si ça se dit. En fait, la première chose, c'est que c'est une croyance très répandue que les gens ne font plus confiance à la science, mais c'est pas vrai. Genre, quand on fait des enquêtes et quand on s'intéresse formellement à la situation, il n'y a pas moins de confiance en la science, il y a moins de confiance en les autorités politiques et sur des sujets très particuliers, des sujets socio-scientifiques, c'est-à-dire vous cassez le bras, vous allez faire une radio, vous mettez un plâtre. On voit pas des gens qui sont en train de se casser le bras et qui sont en train d'aller mettre, je sais pas, du patchouli sur leur doigt. Ça existe, mais c'est vraiment une minorité et le taux est relativement stable sur, on va dire, les 30-40 dernières années. Ce qui a changé, c'est le manque de... C'est vraiment une question de confiance, pas en la connaissance, mais en certains porteurs de connaissances. Pour plein de raisons. Certaines raisons sont légitimes et d'autres ne le sont pas. Et le problème, c'est que souvent, on va grouper tout le monde dans un même sac. Par exemple, si vous êtes un Afro-Américain, et on va vous vacciner pour Covid, et vous dites non, on va vous traiter d'antivax, mais c'est ne pas comprendre les a priori que vous avez, c'est qu'on a déjà expérimenté, probablement sur des gens de votre famille, avec des trucs qui les ont tués. Donc ne faites pas confiance, parce qu'on vous a déjà eu, si vous êtes français des îles, et que vous avez subi le scandale du chlordone, c'est normal que vous n'allez pas faire confiance aux autorités de la santé, parce qu'ils vous ont empoisonné, ils ont nié l'avoir fait. Et donc il y a plein de... On appelle ça les incohérences systémiques. C'est-à-dire, quand on veut prendre en compte ces choses, et c'est quelque chose dont je parle dans mon prochain livre, c'est que souvent on va juste regarder l'individu et on va oublier que notre cognition est ce qu'on appelle une cognition incarnée. Donc j'ai peur, et je suis dans un environnement incertain, j'ai besoin de stabiliser cette incertitude, ben, je vais aller trouver des personnes qui, dans le passé, j'ai pu leur faire confiance. L'exemple de Covid est très bon parce qu'il se trouve qu'au début de la pandémie, moi et quelques collègues, on a été sollicités par le gouvernement pour essayer de les aider à la communication dans temps d'incertitude.
C'est notre métier.
Et on a dit au gouvernement, en fait, ce que vous devez faire, c'est partager l'incertitude. C'est-à-dire, par exemple, on ne sait pas encore si le virus est aéroporté ou manuporté. Sauf qu'ils ne font pas confiance, eux non plus. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait ça. Au début, ils ont dit les masques, ça ne sert à rien. Puis les masques sont obligatoires. Puis vous ne devez pas sortir de chez vous, mais aller voter aux élections. Puis, etc. Et donc, on n'a pas fait des injonctions paradoxales. On a créé un environnement informationnel contradictoire. Donc encore plus incertain, ce qui va nourrir le fait que certaines personnes vont émerger et essayer de prendre en otage cette incertitude en disant « Écoutez-moi, faites-moi confiance, pensez par vous-même. » Et ces gens aussi, il faut les combattre. Il y a plein de fronts à combattre. Et à l'époque, j'avais signé une tribune avec un collègue qui s'appelle Thibaut Kreisinger, dans Libération, qui s'appelle, inverser la focale. C'est-à-dire, au lieu de continuer à juste essayer de comprendre ces mécanismes en regardant les individus, il faut inverser la focale et voir quel est l'environnement informationnel qui existe, qui peut expliquer mieux comment ça marche. Parce qu'encore une fois, on ne voit pas, quand on fait des enquêtes, on ne voit pas une sorte de rejet de la science en tant que discipline. Personne n'est en train de rejeter la mécanique. Personne n'est en train de se dire « je ne vais plus jamais monter dans une voiture parce que c'est ces ingénieurs qui sont en train de la construire, ils ne sont pas dignes de confiance. » Il y a des sujets très particuliers où soit il y a eu des a priori d'expériences négatives, soit un manque de confiance, soit des maîtrises d'intérêt, des choses comme ça, qui font que les gens perdent cette confiance. Et c'est un sujet qui, évidemment, touche les chercheurs, parce que c'est nous qui sommes en train de payer les prix. Je me suis fait insulter à l'an un prix de fois pendant le Covid, alors que j'en parlais quasiment même pas, juste le fait d'être neuroscientifique. Mais c'est un problème qui est aussi politique. C'est un problème qui est politique, c'est que les inégalités se creusent, etc. Je ne veux pas faire un speech politique, je suis capable d'engager, je m'en cache pas, mais on ne peut pas comprendre, on appelle ça la cognition incarnée. Mes pensées ne sont pas juste dans mon cerveau. Mes pensées sont dans un cerveau qui est dans un corps, qui est dans un contexte. Et si on ne prend pas en compte ce triptyque en permanence, on fait que surresponsabiliser les individus
et par là même invisibiliser le système. Donc quand quelqu'un, par exemple, est, je ne sais pas, anti-vax, comme on peut appeler les personnes qui refusent de se faire vacciner, il faut voir pourquoi. Est-ce que c'est parce que quelqu'un dans sa famille a déjà eu une mauvaise expérience? Est-ce que c'est parce qu'il a un set de croyances qui est influencé par certains politiques? Parce que une grande partie de ces narratives ont été aussi poussées par des politiques, par des médias, etc. On a plein de personnes qui avaient des temps d'antenne sans aucune information. J'appelle ça des toutologues. Moi, j'ai vu des personnes qui, au début, ont parlé de Covid, puis sont passés à la guerre en Ukraine, puis sont passés au conflit israélo-palestinien. C'est la même personne. Comment est-ce qu'elle a eu le temps de s'informer sur ces sujets? Donc on a tout un plan systémique au niveau des médias, la polarisation. Là, je fais partie, par exemple, du panel des états généraux de l'information. Comment est-ce qu'on peut améliorer le paysage médiatique en France? Et souvent, on revient au modèle du déficit informationnel avec lequel j'ai commencé, on dit qu'il faut faire de l'éducation aux médias. Apprendre aux gens comment utiliser Internet, comment vérifier les sources, faire des cours de raisonnement critique, etc. Et tout le monde est hyper emballé, et il se trouve que moi, je pense qu'on est deux, mais en tout cas, dans mon groupe, on est divisé en groupe, je suis le seul chercheur en neurosciences, et c'est hyper bizarre, parce que c'est moi qui ai la position assez étrange de dire, en fait, non, c'est pas un problème d'éducation. Alors qu'ils sont en train de dire, il faut qu'on éduque les gens à ta discipline. Et moi, je suis en train de leur dire, non, c'est pas ça, il faut commencer par, déjà, avoir plus de variabilité dans les médias, avoir moins de concentration des pouvoirs, avoir plus de diversification. C'est restant qu'on ne prend pas les algorithmes, par exemple. Si moi, je suis une personne lambda, j'ai pas de connaissance en immunologie, j'ai pas de connaissance en virologie, je suis en train de scroller sur Facebook ou Instagram ou Twitter ou TikTok ou ce que vous voulez, et je vois 20, 30, 40 comptes qui sont en train de me dire le vaccin est mauvais pour toi. C'est pas la même personne, c'est 20, 30, 40 personnes que je connais pas. On sait en psychologie que la réputabilité est un levier très fort pour que les gens commencent à se dire, bah, peut-être que c'est vrai. À cela se rajoute ce qu'on appelle une asymétrie argumentative. C'est-à-dire, si moi je veux vous convaincre de me faire vacciner, il faut que je vous convainque à 100% que c'est safe. Alors que si moi je veux vous convaincre de ne pas vous faire vacciner, il faut juste que je vous mette l'ombre d'un doute. Vous dire, est-ce que vous voulez vraiment risquer de mourir? Et donc, une équipe doit faire un effort de 20%, et une équipe doit faire un effort de 100%, ce qui crée une asymétrie argumentative. Il faut prendre tous ces facteurs l'un derrière l'autre. Le manque de confiance, les asymétries argumentatives, les algorithmes qui sont en train d'éditorialiser le contenu et qui ne veulent pas nous dire comment
quels sont les règles. Question, alors il faut se faire
la concentration des médias, alors qu'on sait que c'est très mauvais. Et un manque de compréhension, parce qu'on ne peut pas tous être experts en tout. Et tout ça va faire émerger tout un groupe de populations très hétérogènes qui peuvent montrer de la défiance. La question, c'est pourquoi est-ce que... Et enfin, il faut, dans cette inversion de la place, il faut aussi parfois se demander pourquoi est-ce que les politiques montre de la défiance envers la population. C'est-à-dire, parfois, le peuple demande quelque chose, les politiques disent non. Et donc, la défiance est des deux camps. Et c'est très mauvais, parce que ça polarise la société, et une société polarisée, c'est vraiment le talon d'Achille des sociétés démocratiques. Donc, c'est tout un sujet qu'il faut prendre de manière systémique. Je pourrais en parler pendant des heures, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille dans plein de différents environnements, on va dire. Mais on ne peut pas le réduire à ce qu'on appelle une cause unique, que les gens ne font plus confiance à la science. Mais oui, en tant que chercheur, notre métier est aujourd'hui beaucoup plus difficile. Aussi parce que la science est devenue un truc technocratique, alors qu'encore une fois, jusqu'à il y a 20-30 ans, moi, enfant, aujourd'hui j'ai 41 ans, quand j'étais plus jeune, vous me dites c'est quoi un scientifique pour vous? Je vous dis c'est Franklin qui essaie de choper la foudre dans une bouteille. Aujourd'hui, je vois mon neveu et je lui dis c'est quoi un scientifique? Il me dit bah, c'est quelqu'un qui est dans un laboratoire qui fait des stats. C'est pas juste ça la science. Et j'essaie un peu de réenchanter la vision de la science dans la société, parce que je pense que c'est dommage.
L'année prochaine,
c'est la moitié de livre.
L'année prochaine, sur notre rendez-vous, il y en aura deux. En tout cas, elle sera là. Comment?
Trois, j'espère.
Alors, mais je l'ai oublié, moi, à la maison. C'est super bien, hein. Faut qu'il revienne l'année prochaine.
Ah oui, oui.
Sans hésiter.
Merci à vous d'être venus.
Et vous êtes prof de quelle matière en fait?
Philosophie.
Philosophie, ouais, je m'en doutais, mais
si on peut y aller,
c'est oui. Bien de l'avoir. Donnez-nous vos commentaires quand vous les reverrez. Quand vous les reverrez. Je pense que ça dû les intéresser, là.
Oh non, monsieur, pour la douleur. Vous allez voir.
Alors
Ça va.
C'était intéressant.
C'était plus qu'intéressant, non, c'était bien.
Oh non, ah bon,
il est bien, il est bien. Il est amusant, il est... Je crois que vous avez eu raison de venir. Et merci de d'avoir laissé les places. Hein. Merci. Alors,
à vendredi,
il est bien. Hein.
Il est bien, oui. Hein, on va méditer.
Je crois qu'on va le faire revenir l'année prochaine.
Ouais,
ça vaut la peine.
Oh, ouais. Bah,
ouais. Super, ouais. Franchement, là,
il n'y a pas de soucis.
Mais par contre, dans une plus grande salle. Hein.
Oui.
Parce que là, on a dit à des gens de ne pas venir en plus.
On va le faire revenir. Hein.
Ah ben, hein, l'année prochaine, je crois, oui.
Sinon, il y en a quelques-uns qui sont très drôles.
Alors ? Ah bah non, c'est pas ça que...
Je vais te chercher.
Bon alors, c'est pas pour le stylo.
Je vais te chercher, là. Ah bah, il est monstrueux.
Ah, faut qu'il revienne l'année prochaine.
Je vais sur ma fin. J'ai besoin d'autres séances, d'autres...
Oui.
J'ai pris beaucoup de notes, d'ailleurs.
Je...
D'ailleurs, les étudiants, mon photographe...